je crois que ce qui m'a le plus forgé, c'est de justement jouer dans des endroits où la musique que je jouais, personne ne voulait l'écouter. Donc, je devais toujours un peu me battre pour avoir l'attention des gens. Et après ça, c'est marrant parce que je me retrouverai à faire les premières parties d'Angèle où c'est la même chose. Les gens sont pas là du tout pour te voir, toi. Et j'ai j'avais remarqué un truc déjà dans mes jeunes années de live, c'était que quand t'es face à un zénith qui est pas là pour t'écouter, toi, t'as une minute pour faire tes preuves. C'est-à-dire, si la première minute elle a pas attrapé tout le monde va parler pendant une demi-heure et t'es un bruit de fond. Si la première minute t'as choqué tout le monde, alors là t'as tout le monde pendant une demi-heure.
Monte le son, c'est le podcast des passionnés de musique. Bienvenue, Daz.
Salman.
Nous sommes ensemble.
Oh, enfin.
Ça faisait longtemps.
Ça fait super longtemps.
Alors
j'ai tout oublié.
Pour nos auditeurs, c'est transparent. On était là il y a 15 jours.
Ah ouais, mais c'est ça.
C'est vrai que
nous,
ça fait.
Ouais. Ça fait plus d'un mois, je pense.
C'est vrai.
Plus d'un mois, putain.
C'était avec Safia Nolin, le dernier épisode enregistré.
L'épisode qui est sorti hier, donc ça vous donnera une indication de quand est-ce qu'on enregistre.
Absolument.
Mais ça me fait très plaisir.
Mais oui, moi aussi, je suis content. D'ailleurs, on arrive petit à petit à la fin de cette saison, Daz. Avant-dernier épisode. Et nous recevons, pour célébrer cet avant-dernier épisode, Julien Granel.
Hello tout le monde.
Bonjour.
Ça va, Julien? Je suis ravi d'assister à ces retrouvailles, c'est très
bien. Mais
touchant.
Oui.
Il y a une émotion là sur le plateau, c'est fou. Dès le départ, je suis dedans.
Nous sommes très heureux. Mais tu sais que c'est, en vrai, c'est important une émission comme celle-là, de se retrouver, mais d'être en équipe et tout.
Genre, l'émotion est déjà présente.
Tu sais ce que c'est, toi, bosser en équipe?
Ah ouais, complètement. Tout se passe en équipe.
Et retrouver l'équipe, c'est un truc.
Complètement, c'est toujours un kiff.
Ouais. Julien, pour tes musiciens.
Ouais, on peut dire ça.
On peut dire ça.
Ouais, carrément.
Bon, compositeur, producteur, chanteur, dans un style électropop. Hyper solaire, c'est un peu ta marque de fabrique. Tu fais de la musique joyeuse, ce qui n'est pas toujours évident, on en parlera.
Oui, c'est vrai. Disons que, en plus, j'ai l'impression qu'en France, culturellement, il y a plus un respect des médias et tout pour la musique, enfin de la critique au sens large du terme, pour la musique un peu plus dramatique. Je pense qu'on a un truc un peu de dramaturgie en France qui vient de la musique classique, de l'opéra. Toute la musique qui a été vraiment respectée par la critique et tout, ça a toujours été un truc un peu dramatique. Mais même les Edith Piaf, Aznavour et tout.
Bien sûr.
Moi j'adore, hein, mais c'est vrai que faire de la musique joyeuse, à proprement dit joyeuse, c'est toujours plus compliqué parce que ça peut vite sonner
niais. Exactement.
Et ça peut vite... Mais moi, mes morceaux préférés joyeux, ils sont souvent faits avec des accords mineurs.
Ah.
Qui sont souvent des accords qui sont dits
tristes.
Ouais. Mais je trouve que les plus beaux morceaux joyeux, ils sont faits avec cette mélancolie.
Parce que ça joue sur une tension, justement.
Exactement.
T'as un exemple de...
Par exemple, il y a un morceau que je trouve hyper mélancolique, c'est Digital Love des Daft Punk.
Ouais.
Et c'est tout ce sample de début.
Ouais.
En fait, c'est sur des accords très tendus et c'est pas avec des... Ça, c'est des accords qui sont genre avec des... Enfin, comment le traduire? Il y a des tensions, disons.
Ouais.
Et donc, ces tensions-là, c'est pas des accords à proprement dit majeurs. Et au final, il y a une petite mélancolie.
C'est
un peu honteux de commencer une émission avec Julien Granel, pas en écoutant Julien Granel, mais vas-y, un petit extrait de Digital Love, et après on écoute
ta musique. Moi, j'adore écouter la musique des autres.
Vas-y, on se met un petit extrait.
Donc ça, c'est mineur.
Ouais, il n'y a pas que des accords mineurs, sinon je vais me faire tomber dessus par les musiciens qui regardent, attention. Premier accord est majeur, le deuxième non, et le troisième c'est un majeur avec un sus, donc c'est genre très, très tendu. Mais tu vois, il y a une ambiance, quand tu l'écoutes, il y a une ambiance mélancolique. Pourtant, si tu passes ce morceau dans une soirée, c'est, t'as toute cette montée, quand le drop y part, c'est le bonheur absolu. Donc, moi j'ai toujours été attaché aux morceaux qui ont une euphorie plus que du bonheur dedans. Et ce truc-là d'euphorie, c'est le truc que je vais chercher à chaque fois. Et je trouve ce morceau, c'est l'exemple parfait où ça met un truc collectif où tout le monde se fait embarquer.
C'est pas un hasard que tu cites Daft Punk, parce que parmi tes influences majeures, il y a toute la scène French Touch, notamment, parfois on parle de French Touch 2.0, c'est la cliquette banger en gros.
Ah, bien sûr.
Avec une grosse influence, tu le dis quand même aussi au début, quand t'as fait de la musique et tout, Mika était une grosse influence.
Ouais,
on retrouve d'ailleurs l'univers coloré, etc. Un peu chez
toi.
C'était
un mélange de tout ça. C'est marrant parce qu'à la base, j'avais découvert en 2010 toute la scène headbanger, les compiles Headrec et tout, mais j'avais 12 ans, quoi. Et ensuite, j'ai découvert par ce prisme-là Discovery des Daft Punk, qui était un album qui me faisait entrer de la meilleure manière possible dans la musique électronique, parce que c'était des samples de disco. Donc moi qui faisais du piano, qui était hyper attaché aux harmonies, qui adorait les jeux d'accords et tout, je retrouvais tous ces grooves-là sampler un peu imparfaitement dans une musique électronique et club. Et c'est d'ailleurs un album qui a un revival là, en ce moment, qui est fou, parce que je pense que les gens comprennent enfin. À la base, c'était juste de la musique électronique. Et là, les gens comprennent enfin que c'est une musique électronique avec énormément de nuances et d'émotions, d'imperfections dedans. Donc, quelque chose de très organique. Donc ça, ouais, ça a été un énorme coup de cœur. Et ensuite, moi, j'avais un truc pour la pop aussi. Mais c'est pour ça aussi que j'ai bien aimé les compil d'Headbanger. C'était des designs très pop.
Bien sûr. Même le son, d'ailleurs, n'était pas le son underground. Alors, les Daft ont commencé avec un son underground, mais ça a vite évolué, en fait.
Bien sûr, il y avait des morceaux comme Pop the Glock de Euphi sur Headrake Volume 1, où pour moi, c'était le mélange parfait entre la pop culture ultime et la musique totalement underground des clubs. Et j'adorais Bowie, j'adorais Prince... j'adorais Elton John, et du coup, il y avait un peu un mélange de tout ça. L'équivalent en France, tu vois, qui passait à la radio, c'était Mika. Ouais. Et je me souviens que quand Mika a sorti Relax, Take It Easy, c'était genre hyper avant-gardiste au moment où ça passait à la radio. C'était mon premier souvenir d'être dans la voiture avec mes parents et d'aimer un son qui passait à la radio.
Est-ce que tu penses que c'était avant-gardiste ou c'est que ça remettait au goût du jour une façon de faire de la musique dont on n'avait plus l'habitude?
Il y avait un côté qui mélangeait Freddie Mercury, les Bee Gees. Et donc du coup, il y avait un truc qui était intergénérationnel. Mais moi, pour ma génération, moi plus jeune, c'était la première fois que t'entendais sur des grosses radios, vraiment des radios grand public, un son voilà comme ça qui arrivait, qui était un peu plus différent, quoi.
Ouais, c'est vrai que Mika, il a un peu décomplexé le son joyeux, justement.
Ouais, ça va.
Là où les autres peut-être s'interdisaient de le faire parce qu'ils disaient ça va sonner niais et tout. Peut-être que c'est parce qu'ils chantaient en anglais aussi que ça a pu
passer. Je pense il y a vraiment un truc de ça pour le public francophone. Et à la fois, tu sais, là maintenant, si on réécoute des morceaux de Daft Punk, je sais pas, là, en ce moment, tout le monde écoute One More Time, vu que c'est le morceau de la Coupe du Monde.
Ah oui, c'est vrai.
Quand la France marque un but, c'est One More Time, le track. Et ce qui est un poil en mode indécent pour les adversaires, tu sais, c'est
One More Time. En même temps, vu la forme de l'équipe de France en ce moment.
Ah ouais, elle est incroyable.
Mais tu vois, si tu réécoutes, c'est un truc hyper joyeux. Mais il y a cette notion-là d'euphorie totale. C'est pour ça que j'aime bien la manière dont tu as décrit ma musique, parce que pendant longtemps, ma musique, elle était vraiment à la frontière de tout ça. C'est vraiment un mix de toutes ces influences qui arrivent dans tous les sens. Mais pour moi, il y a toujours une ligne directive et une ligne directrice. Et en gros, ce que j'adore, c'est que les gens qui me suivent souvent, ils décrivent ma musique par des adjectifs plutôt que par des styles de musique. Donc souvent, les gens ils vont dire que je fais une musique fédératrice ou solaire, comme tu as dit, joyeuse, énergique, plus que de dire c'est un mélange entre de l'électro, de la French touch, de la funk. Et ça, j'aime bien, parce que j'ai l'impression que j'ai craqué un code qui me donne une liberté absolue. Parce que les adjectifs, tu peux mettre le style que tu veux, complètement.
C'est pas quand on a un style.
C'est marrant parce que t'as ton parcours il est bizarre, ton parcours.
Ouais, il est trop bizarre.
Il y a à la fois de l'exposition et en même temps il y a un peu de hustle, ça met un peu de temps. Enfin, moi j'ai pas tout compris d'ailleurs.
Ah ouais.
On en parlera parce que il y a un premier EP qui sort en 2020, mais en fait t'as déjà des singles derrière toi et tout. Il y a même peut-être qu'on en parlera très brièvement. Un petit passage à la Nouvelle Star. T'as 18 ans.
J'avais 17 ans.
17 même, ah ouais.
En fait, j'habitais dans un village de 2000 habitants. Un village qui s'appelle
Rion-des-Landes.
Et je me disais, mais je vais jamais pouvoir faire de la musique de ma vie parce que je suis dans ce village de 2000 habitants. Personne dans ma famille connaît personne. Donc bon, je me suis dit, comment je fais?
C'est un territoire, de musique, un peu les Landes, où c'est compliqué?
Il y a un accès aux écoles de musique qui est assez cool, parce que t'arrives direct dans le cursus du conservatoire quand tu fais de la musique. Mais ça passe beaucoup par des trucs tu finis vite dans l'harmonie municipale du village et tout. Ce que j'avais pas forcément envie de faire, mais en tout cas, ce qui fait partie de toute l'expérience.
Franchement, ça peut être pas mal, des fois.
Grave. En tout cas, pour le coup, déjà, tu dis que mon parcours, il est bizarre. Alors, avant ça, j'ai tout fait, j'ai fait de la musique de chambre, j'ai fait de la musique classique, j'ai fait du jazz, j'ai fait...
14 ans de conservatoire, ouais, ça, à peu près.
Ouais, exactement, c'était grâce à ce cursus-là qui était quand même très varié. Donc il y a un bel accès, on pense pas assez à quel point il y a un bel accès à la musique sur ces territoires-là. Par contre, c'est vrai que j'avais aucun moyen, et c'est tout simplement, cette petite parenthèse-là, c'était plus, j'avais 17 ans, je me disais, le seul truc que je vois qui paraît accessible pour se faire un peu remarquer et rencontrer des gens ou être à la télé, c'était ça. Donc j'étais allé un peu comme ça. Et j'étais parti assez vite. En fait, il y a pas mal de médias locaux qui en ont parlé, donc c'est un peu resté. Mais en vrai, j'ai rien fait. Je suis même pas allé sur les trucs.
Sur les primes et tout.
Non, j'ai pas du tout fait ça. Ah, c'est juste, j'étais
resté sur les,
j'étais le petit mec, j'étais le petit mec, l'enfant du pays qui a fait ça. Mais vraiment, ça, moi, ça m'a rien apporté, je dirais.
On rappelle juste, pardon, pour nos auditeurs qui n'ont pas connu la Nouvelle Star, c'était un télécrochet. Aujourd'hui, on connaît bien la Star Academy parce que ça s'est relancé.
Ouais, il y a une hype de fou là.
Exactement.
Ouais, la Star Academy, c'est genre, c'est une télé-réalité où tu suis les gens dans leur apprentissage, alors que la Nouvelle Star, c'est t'arrives, tu fais un casting.
En fait, à mon époque, il y avait déjà les exemples des Julien Doré.
Ils sont filmés, les castings.
Tu vois, je me disais quand même, il y a des gens, ils sortent et ils font ce qu'ils veulent après. Donc je m'étais dit, pourquoi pas. Voilà, ça a plus été un truc, un prétexte. Je pense que c'est un truc qui m'a inconsciemment poussé un peu à aller sur Paris ou un peu bouger, rencontrer des gens.
Mais du coup, t'as fait que les castings, t'as pas fait les primes.
Non. Okay. Non, c'est pour ça, c'est drôle, le truc reste un peu, mais...
En tout cas, ça c'est 2013, c'est, je crois à peu près, c'est ça la Nouvelle Star 2013 ça,
Ouais, je pense.
Un truc comme ça. Premier EP, je le disais, 2020, Bagarre. C'est un bon... Je pense qu'il y a des gens qui commencent à te repérer à ce moment-là, mais ça explose pas non plus.
Ah non, mais pas du tout, ça explose même pas du tout, on va voir des mots, ça n'explose pas du tout.
Il y a un truc fou par contre, c'est qu'en parallèle, tu te retrouves à faire un peu par hasard les premières parties de Angèle, qui est pas encore la méga star qu'elle est, mais ça arrive.
Ouais.
Et en fait, tu vas l'accompagner pendant 2 ans, tu vas ouvrir pour elle, et y compris ça va accompagner son explosion. Là, tu vas faire des grosses salles, par contre.
Ouais, en fait, on s'est rencontrés même au moment où ça commençait même pas, parce que c'était peut-être 1 an et demi avant qu'elle sorte son premier album.
Ouais.
Et même son premier morceau. Après, dès qu'elle a sorti son premier morceau, c'est parti en flèche, mais c'était juste... une petite meuf de Bruxelles qui voulait aller à Paris faire de la musique. Et moi, j'habite à Bordeaux à ce moment-là. Je voulais aller à Paris faire de la musique. On a fait un concert dans un appart devant 12 personnes. Tout le monde s'en foutait. C'était pas terrible. Et on s'est bien entendu. Et donc, on se retrouvait quand on était à Paris en même temps. Et c'est marrant quand je regarde ça. C'était il y a 10 ans maintenant. Maintenant, quand on en reparle avec le recul, on trouve ça trop mignon. On était là, on est arrivé, on faisait nos petites vies. Et elle a eu... la bienveillance et la classe de m'inviter sur toutes ces premières parties. Donc ça c'était le premier moment où je me retrouvais sur des grosses scènes, parce qu'avant ça j'avais fait moi des dizaines et des dizaines de scènes, mais vraiment mais chaotiques quoi. Dans des bars, dans des off de festivals.
Et là tu passes avec, parce que donc ça, évidemment la carrière d'Angèle prend une trajectoire complètement folle. Et t'arrives à faire une tournée des Zéniths avec elle en première partie, ou finissez même à Bercy, si je dis pas de bêtises.
Exactement. Ouais. On a joué à l'Accor Arena, c'était fou. Et j'ai fait, je pense qu'on a fait 50 dates ensemble à peu près, une cinquantaine de dates. Donc ça, chance incroyable. Et c'était improbable parce qu'il n'y a rien qui est prédestiné à tout ça au moment où ça rencontrait. Et c'était fou.
Et tu tentes en 2022, de concrétiser le truc, un peu transformer l'essai avec un album. Ça s'appelle Couleur. Couleur, cool, tu vois, C-O-O-L,
ah,
couleur.
Couleur, genre...
Et ouais, ça bosse ici, hein.
Stylé.
J'ai brainstormé, je te le dis.
Enregistré chez Motorbass.
Ouais.
Rien que ça, Motorbass qui est évidemment un studio mythique pour la French Touch. C'était fondé par Philippe Zdar de Cassius, etc.
Exactement.
Enfin, Cassius, entre autres. Et ça va pas prendre tout de suite, cet album.
N'ayons pas peur des mots, ça ne prend pas tout de suite du tout. C'est-à-dire que même le morceau que les gens ont connu, c'est un morceau qui s'appelle Plus Fort... Et il est sorti peut-être, 4 mois avant l'album. Mais il est passé, mais inaperçu. C'était un caillou dans l'océan.
C'était quelle année, ça?
C'était...
2022, l'album, donc
C'est ça.
Autour de 2021-2022.
Ouais, ça devait être fin 2021.
Ah, c'était la fin du Covid, c'est pour ça.
Ouais, alors dis-toi, moi j'ai sorti... Je sortais de la tournée d'Angèle, c'est la première fois que je commençais à avoir un peu des festivals. Et j'ai lâché mon EP, moi j'ai le nez, juste avant le Covid. J'ai sorti ça, tous les festivals annulés, rien du tout. Et je me suis dit, allez, c'est pas grave, on va aller faire l'année prochaine. Pas du tout.
Dur.
Pas du tout, il n'y a rien qui se rebookait. Et c'est là où je me suis dit, je m'enferme, je fais un album. Mais tu sais, un premier album, au final, ça met toujours beaucoup de temps parce que c'est pas vraiment un moment où tu fais l'album, c'est toutes les années d'avant. Donc tu as un peu une pression interne de tout ça. Et je me suis dit, je vais juste faire... J'avais plein de morceaux de côté, j'ai tout recommencé à zéro. Et c'était pendant le confinement que j'ai fait cet album. Et cet album, c'était une déclaration d'amour aux petits de 13-14 ans que j'étais, en gros. Il y avait un peu tout qui se mélangeait. Et j'ai fait vraiment sans réfléchir. C'était brut. Je pense que ça s'entend. Je sais pas si les gens ont tout découvert de cet album, parce que c'est marrant. Maintenant, il y a des gens qui redécouvrent des choses sur cet album. Il y a des morceaux... bien zinzin dedans. Il y a notamment un morceau qui s'appelle Multicolor Jam avec Jean-Charles de Castelbajac, qui est un espèce de morceau de free jazz, de modulaire de synthé. Il y a un morceau qui s'appelle Multicolor Jam 1 avec Pedro Winter, qui est un espèce de jam sur des synthés en studio. un morceau qui s'appelle Distance, qui est complètement barré, avec une voix aiguë totalement chelou, mais en français, avec des grattes, avec des chorus partout. Enfin, vraiment, des fois, je réécoute et je me dis, c'est pas mal. Mmh. Et souvent, les gens là commencent à découvrir des bouts de ça. Quand je suis, j'ai la chance de jouer à New York en ce moment, les gens découvrent du coup par le prisme de mes soirées et tout, ils vont un peu diguer et ils tombent sur des morceaux et ils disent mais c'est fou ça avec des voix en français et tout.
Peut-être qu'il faut le rééditer, non ?
Je me demande, je sais pas, moi je suis toujours un peu de l'avis de je passe toujours à autre chose, j'avance mais...
Après, ce qu'il faut dire c'est que, c'est pour ça que aussi je comprends que t'as envie peut-être de nouveautés musicales parce que après cet album... Tu vas te concentrer sur live, mais par contre, tu vas avoir très peu de releases. Jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, il y a très peu de morceaux.
Complètement.
En fait. Alors, tu vas te rendre compte, depuis 2022, ouais. On en parlera à ça d'ailleurs, parce que c'est presque une prise de risque.
Ah, totalement.
Mais par contre, tu te dis, ma voix, c'est le live. Parce que, en gros, 2022-2023, sur deux ans, tu fais à peu près 200 dates.
Ouais.
Et en 2024.
C'est beaucoup, là.
Non, mais tu vas halluciner. 2024. Tu fais autour de 180 dates.
Dans l'année,
C'est-à-dire que sur un an, un jour sur deux, il est en concert.
Ouais. Non, c'était fou. Hein.
Et tu es le mec qui tourne le plus en France à ce moment-là. Tu fais tous les festivals.
Ouais,
t'es le mec le plus booké en festival.
Et c'est drôle parce que ça s'est passé. J'ai commencé à être le plus booké. Enfin, tu sais, les festivals, ça se book souvent un an à l'avance. On a commencé à un peu pressentir que ça ressemblait à être la tournée la plus bookée de l'été. Et c'était avant même que je sois nommé aux Victoires de la Musique. Donc, une fois que j'ai fait les Victoires de la Musique, j'ai fait...
Pour la révélation scène, justement.
Ouais, j'ai fait une prestation et tout, un peu pareil, qui partait dans tous les sens, parce que c'était fait exprès, j'avais envie de mettre la pagaille un peu là-dedans. Et en fait, j'étais déjà... Tous les festivals étaient déjà bookés. Donc, je sais, quand j'en parle avec les gens, ils me disent « Ah bah oui, t'as fait les Victoires de la Musique, et après, t'as été le plus booké des festivals. » Mais la vérité, en fait, non, c'est que ça s'est passé avant. Mmh.
Mais après, t'as ressenti l'effet Victoires de la Musique, quand même, après ?
J'ai ressenti un effet, c'est marrant. Moi, j'ai plus ressenti l'effet dans la rue. Parce que je pense que les gens, ils ont bien retenu mes cheveux, je pense.
Oui, pour ceux qui nous écoutent, tu as les cheveux colorés.
Ouais, j'ai cheveux
roses en ce moment.
Et donc, c'est vrai que ça a été un gros choc dans la rue. Tu vois, les gens, d'un coup, de toutes les générations étaient là. Mais je pense que ça aussi, ça m'a servi à montrer un peu ce qu'était mon live. Parce que comme tu disais, j'ai pris le choix de faire peu de releases et beaucoup de live parce que aussi on était, pour en parler des heures, mais on est dans un monde qui change, de la musique, c'est de plus en plus compliqué, l'attention des gens, les trucs, les réseaux. J'ai l'impression que...
L'économie du streaming.
Exactement, non mais c'est fou tous les sujets qu'il y a en ce moment. J'ai l'impression que le message se dilue, on oublie la musique au milieu de tout ça et je me suis dit... La chance qu'on a avec la musique, c'est quand on fait de la musique, on fait des tournées. Les tournées, les concerts, les festivals, c'est le dernier endroit du monde où les gens se retrouvent, tout simplement. À part, tu vois, là, en ce moment, on voit une Coupe du Monde, peut-être que ça ressemble un peu à ça, mais...
Ah, le foot, c'est imbattable.
Oui, tu vois, mais tu vois que les gens se retrouvent et se fédèrent autour de juste de la musique ou d'un artiste qu'ils connaissent pas. C'est magnifique, donc ça, c'est la première chance. Et la deuxième chance, c'est que je trouve qu'il y a un peu une justice dans le live. C'est-à-dire que quelqu'un qui arrive, il te connaît pas en festival, et si tu fais un bon live, il va te suivre et il va revenir te voir. Mmh. Par contre, si tu fais un live moyen, je dis même pas mauvais. Si tu fais un live moyen, cette personne ne te laissera jamais une seconde chance. Ouais. Et c'est pour ça que je me suis consacré vraiment au live, c'est que je me suis dit, c'est la première année où d'un coup je vais jouer devant, je sais pas, peut-être plus de 300 000 personnes dans l'été, parce que c'était des grosses scènes, des gros festivals. Je me suis dit, c'est tout un public potentiel qui, si c'est moyen, ne reviendra jamais. On n'achètera jamais un ticket.
Il faut que je les éclate, en fait.
Moi, je me dis, si je vais voir un artiste en festival et que j'ai trouvé ça moyen, ça va être dur de laisser une seconde chance. Je vais pas acheter un billet de moi-même pour aller le voir en tournée ensuite, tu vois.
Mais c'est terrible ce que tu dis, parce que on rentrera dans le détail après, comment tu veux être tout le temps au top en faisant un concert tous les deux jours ?
Ah bah bien sûr.
C'est pas possible, en fait, c'est un rythme de mal. Je sais même pas comment ton corps a suivi d'ailleurs, on en parlera.
Je sais toujours pas non plus, franchement. Même là, je t'avoue, je suis dans un mois où je crois que je fais 20 dates là, en 6 semaines. Et j'avais oublié ce que c'était là. Je me remets un peu dedans, je me dis ah, ok, je reprends les réflexes un peu. Mais je crois que c'est justement ça qui m'a fait me focus sur le live. J'aimais bien ce truc de... En fait, je m'étais trouvé un peu de côté. Je me trouvais un peu de côté dans. C'est pour ça que je pense qu'on va se rejoindre là-dessus. Tu dis que j'ai un parcours un peu bizarre. J'ai jamais appartenu à une grande famille. J'ai pas été vraiment accepté dans la grande famille de la pop. J'ai pas été accepté dans la grande famille de l'électro, plus underground. Les gens étaient un peu.
Inclassables, quoi.
Perdus, tu vois. Mais ce que je comprends. Et en fait, le live, ça mentait pas, ça trichait pas. Donc, quand les médias parlaient pas de moi, quand j'étais invité nulle part, par contre, les festivals, petit à petit, bah, j'étais booké parce que les programmateurs, ils disaient, mais je l'ai vu à tel festival, il a joué dans un chapiteau au fin fond du festival, mais le chapiteau débordait. Et d'un coup, c'était la folie. Donc, c'est grâce à ça que, étape par étape, j'avais beaucoup de festivals. Et pour pas me lasser, pour pas devenir fou aussi avec toutes ces dates, j'ai fait un système de live où il y avait beaucoup d'impro dedans. Et tout était relié. J'ai vraiment passé des semaines à monter ça pour que les lights soient reliés.
Spoil pas trop, parce que ça, on prendra le temps.
Ouais.
Tranquillement, là, on présente un peu, tu vois, globalement ton parcours, puis on rentrera dans quelques détails.
Ça marche.
Tu dis qu'il y a eu ce live. Et ce qui est marrant, enfin, ces années de live, c'est que l'album, d'ailleurs, a été redécouvert après. Et tu vas avoir un gros tube, effectivement, tu l'as cité, qui va enfin venir, qui a aujourd'hui plus de 10 millions d'écoutes sur Spotify, des millions aussi sur YouTube.
Allez, on s'écoute.
Et on s'écoute maintenant ? Allez, vas-y. Voilà, on fait comme ça. C'est parti. Ça s'appelle Plus Fort.
Tant qu'on joue, peu importe de gagner la vie, c'est à additionner les années, et tant pis. Y aura des jours sans, des galères, des soirées qui feront venir le soleil en pleine nuit. Je t'aime, autant le dire comme le monde n'attend pas. Dis-leur que l'avenir se fera pas sans moi. Des couleurs, il en faudra. L'espace et la tempête, on est plus fort que ça. Plus rien nous arrête, on est plus fort que ça. L'espace et la tempête. Les avis, j'encaisse. J'ai additionné les échecs, et tant pis. Si je perds sur la route de mes rêves, des amis qui durent, et je croyais pour la vie. Si tu l'aimes, autant lui dire, et le reste attendra. Je croyais que l'avenir ne se finissait pas. Je vais courir, et ça ira. Laisse passer la tempête, on est plus.
On sait, t'as dû placer à balle en publicité dans tous les sens avec des trucs comme ça. Tu peux le dire.
On m'a souvent appelé pour des publicités, ça s'est jamais concrétisé.
Ah ouais ?
Je sais que j'étais en finale pour des pubs.
Bah oui, parce que ça.
Mais moi, j'ai pas trop suivi, mais en tout cas, il y a jamais une pub qui a pris ce morceau.
C'est vrai ? Même ouais. Là, je vois bien.
Je l'aurais tellement vu aussi.
Un petit Apple là, un petit AirPod.
Ouais, grave, c'est vrai. Ouais, je suis d'accord, hein, mais.
Apple.
Il y a pas eu de.
On est influent dans le milieu. Apple, Eudebert, des biscottes.
C'est intéressant que tu parles des marques parce que justement, moi je suis content de te recevoir parce que tu cristallises plein de trucs un peu de la musique d'aujourd'hui avec ses aspects positifs, parfois ses aspects qu'on peut aussi interroger.
Ouais.
Tu vois par exemple le truc incroyable, c'est le fait que tu sois forgé en live, ça c'est hyper intéressant.
Ouais.
À côté, on peut se dire aussi que parfois tu peux représenter un truc aussi où l'image. Tu sais, elle est hyper importante, ton look,
grave,
etc.
Grave.
On se dit aussi parfois, est-ce qu'il n'y a pas le risque que ça prenne le dessus sur la musique ? Tu vois, il y a aussi des interrogations comme ça.
On se pose encore ces questions en 2026 sans déconner.
Moi, en tout cas, oui. Ouais, je pense.
Ouais, je pense parce que justement, il y a plein d'exemples où il y a des projets qui sont un peu push, tu sais, où tu sens que c'est trop marketé, il y a trop d'images. Bah, et les gens, ils ont un peu perdu la confiance. En ça, donc
oui, mais à l'inverse, il y a aussi des trucs qui sont super marketés pour donner l'impression que justement c'est fait
ça,
à hasard.
Ah oui, bien sûr.
Que c'est
DIY,
mais
c'est
pas du tout.
Je pense que c'est encore plus pour ça que les gens ont perdu confiance, ils ont perdu la naïveté de ça. Et tant mieux à la fois parce que il y a aussi d'autres projets où d'un coup t'as des artistes qui sortent un peu de nulle part, mais t'as le personnage qui embrasse la musique et il y a un truc total. Je pense que les gens ils font la part des choses entre ce qui est sincère et ce qui est, même si des fois c'est impossible à sentir, je pense le public souvent se trompe pas sur la longueur.
Sur la longueur, ça c'est vrai.
Ouais, c'est ma théorie. Sur la longueur, le public ne se trompe pas.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, depuis toujours, dès que tu fais de la musique pop, l'image est indissociable.
Ça c'est vrai.
Tu vois, tu parlais d'Elton John par exemple. Mais... Elton John, il était giga reconnaissable. Il
ouais, bien sûr.
Style, tu vois, enfin.
C'est tout ce que ça raconte aussi quand le style va avec le message. Tu vois, Elton John, ce qu'il racontait dans ses chansons, il le transcendait dans ses tenues.
C'est vrai, mais il y a quand même ce truc spécifique avec Julien, par exemple, je trouve. C'est... Mais vraiment, on en parlera après.
Ouais.
Mais je lance quand même le truc.
On
c'est...
parle de plein de trucs après, mais ouais. On parle de quoi là?
Non, c'est par exemple, tu vois, Julien, ça va être, on peut dire, c'est le mec aux cheveux roses, tu vois.
Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai,
quand même,
complètement,
truc
complètement.
Hyper identifié. Ah, limite, il y a peut-être des gens qui savent même pas qu'il fait de la musique, par contre, ils voient visuellement le mec, tu vois.
Ah, bien sûr. Moi, je pense que c'est jamais, on en parlera plus longuement après ça, mais je pense que c'est jamais vraiment un problème du moment que, en fait, je pense, quoi que tu fasses dans la vie, tu peux jamais contrôler ce que les gens pensent ou disent de toi. Et je pense que s'il y a une graine dans leur tête qui est là, ce mec aux cheveux roses, le jour ils vont y repenser, ils vont aller voir et bah, je sais pas, ils vont tomber sur mon Instagram, ils vont tomber sur une vidéo où je suis en train de faire du son, en train de, et ils vont se dire, ah ouais, ok, c'est un vrai gars qui fait de la musique. Donc moi, je pense que c'est jamais un problème, tu vois, quand l'exposition, alors ça dépend ce que tu fais avec cette exposition-là, bien sûr. Mais je pense que quand c'est juste un truc de les gens t'ont retenu parce qu'ils t'ont vu quelque part, c'est jamais un mauvais truc.
Tu parles de longueur, de durée, parce qu'une carrière, ça se construit. Toi, il y a eu justement des étapes qui sont un peu marquées par des territoires, parce que tu as les Landes au début, Bordeaux, ensuite il y a Paris, et maintenant tu vis à New York.
Ouais.
Et à chaque fois, c'est des étapes musicales, j'en suis sûr. Et limite, là, on pourrait se faire un point vraiment focus là-dessus. Tu disais que les Landes.
On peut parler là, ça y est,
c'est bon. C'est bon un peu.
Non, tu vois, les Landes, tu disais donc, que tu as pu faire ton apprentissage musical.
Ouais.
Par contre. C'était plus difficile quand on veut faire de la musique d'aujourd'hui, entre guillemets, si je peux dire. C'est ça que tu essayais un peu de nous dire tout à l'heure?
Disons que, en tout cas, il n'y avait pas l'espace dans le cursus classique de conservatoire. Ça, je pense que c'est partout. C'est pas propre au conservatoire dans le sud-ouest. C'est juste, ça fait pas partie du programme. En fait, dans le programme musique classique, qui est dite musique savante d'ailleurs, parce que la musique classique, c'est qu'une époque, dès que tu commences à aborder des trucs plus contemporains, ça sort du cursus. Moi, mon dernier examen de musique classique, j'avais présenté un programme où il y avait des morceaux des ragtime de Scott Joplin, des morceaux de Schumann, et c'était déjà perçu comme de Gershwin, Schumann ça allait, mais de George Gershwin, j'avais joué un morceau de George Gershwin, et ça c'était déjà c'était déjà un peu trop contemporain. Il y avait eu un débat sur...
C'est de l'avant-garde.
Non, mais il y avait eu un débat sur mon... Donc, c'est pour dire, il y a tout qui est dans un cadre.
Tu te rappelles du morceau de Gershwin? C'était lequel?
C'était The Man I Love de Gershwin. Mon morceau préféré, j'adore ça. La version piano solo.
En piano solo,
Il va falloir la trouver, elle est technique à trouver celle-là.
C'est vrai. Est-ce qu'on peut la trouver?
The Man I Love de Gershwin. C'est la première fois, je pense, dans le cursus classique où je trouve des accords où ça me touche. Et quand je l'apprends, je commence à jouer avec les accords et à jouer autre chose.
Ça, c'était difficile à défendre au conservatoire.
Grave, c'est magnifique, hein. C'est incroyable. Là. Ça me fait trop bien de le réécouter. Cool. Je suis content qu'on écoute ce morceau de George Gershwin.
Est-ce que par contre, il y avait, je sais pas, des concerts, une smack, hein, dans, pas loin de là où t'étais?
Il y avait des concerts, mais stylistiquement, c'était vraiment. Moi, mes souvenirs, c'était du rock, du ska, des trucs comme ça.
Okay.
C'était vraiment très. Il y avait pas de musique électronique en gros. Donc moi, je faisais j'avais regardé des lives de Soulwax sur YouTube à l'époque. Ouais. Notamment, il y avait une vidéo qui était un extrait d'un documentaire en flamand sur Soulwax. Je comprenais même pas ce que c'était la langue à l'époque. Je me disais, mais en quoi ils parlent? Et en gros, les mecs, ils étaient en train de jouer en live un remix de Phantom de Justice. Et il y avait l'extrait dans ce documentaire. Et c'est la première fois que je voyais des mecs avec des MS-10, des MS-20 sur scène, habillés en costard blanc, avec des guitares, des batteries. Et je me suis dit, mais je veux faire ça. Donc j'ai commencé par faire de la musique avec des potes à moi, où je composais, je produisais tout, et Je le déroulais pour le jouer en live avec une batterie, une guitare, des synthés. Et très vite, à l'âge de 14-15 ans, j'ai commencé à faire de la prod, mais vraiment sur Audacity. Je sais pas si vous voyez
ce logiciel. Waouh, ce qui n'est absolument pas fait pour.
Ah ouais, non, j'avais, pour, ouais. Parce que j'avais que ça. J'avais juste un vieux PC chez mes parents. Il y avait juste Audacity. J'avais pas encore de Mac avec GarageBand et tout.
Mais tu l'utilisais comme un multipiste, en
et
fait.
Bah ouais, je faisais multipiste et j'avais un synthé arrangeur, un Korg arrangeur où tu peux mettre les sons. C'est là où les gars, ils font des reprises avec des accordéons et tout. Tu vois, où il y a des bandes démo un peu dessus. Et je mettais les sons un par un et j'essayais de refaire des prods que j'aimais bien pour comprendre comment ça marchait. Et petit à petit, je pense que c'est ça qui m'a fait comprendre comment on faisait de la production. C'est passé par là. Et c'est marrant parce qu'après, assez vite, quand j'ai eu accès à GarageBand et tout, vers 16-17 ans, j'ai retrouvé il n'y a pas longtemps des maquettes que je faisais à ce moment-là. Et il y a un truc, mais ultra niche, ultra underground. Et j'étais choqué d'entendre mes premières productions. Il y avait des trucs de fou. Je savais pas comment faire. Je savais pas ce que c'était une talkbox. Donc j'essayais de faire des sons de talkbox. Je mettais juste un espèce de tuner. Donc comme un autotune, mais ça s'appelait pas autotune. C'était un tuner que je mettais à fond. Je mettais des saturations dessus. En fait, ça m'a appris à bidouiller ce. Et je crois que c'est pour ça que la manière dont je produis maintenant, parfois quand je suis en studio avec des ingé-sons et tout, ils sont en mode, mais qu'est-ce que t'es en train de faire? Et au final, ça sonne. À la fin, ça sonne bien.
Et t'as pas l'impression quand même qu'il y a un truc dans ta musique qui t'a forgé de ton territoire? Je sais pas s'il y a des scènes fortes dans les Landes.
Il veut te ramener.
S'il y a de la musique folklorique, j'en sais rien, des Landes et tout.
Non. En vrai, pas vraiment. Je crois que ce qui m'a le plus forgé, c'est de justement jouer dans des endroits où la musique que je jouais, personne ne voulait l'écouter. Donc, je devais toujours un peu me battre pour avoir l'attention des gens. Je pense que ça m'a appris au bout d'un moment juste essayer de les avoir par la musique sans essayer de forcer. Parce que c'est toujours là où ça se passait le mieux. Et après ça, c'est marrant parce que je me retrouverai à faire les premières parties d'Angèle où c'est la même chose. Les gens sont pas là du tout pour te voir toi. Et j'ai
prêt, quoi.
Ah bah, j'avais remarqué un truc déjà dans mes jeunes années de live, c'était que quand t'es face à un zénith qui est pas là pour t'écouter toi, t'as une minute pour faire tes preuves. C'est-à-dire si la première minute elle a pas attrapé tout le monde va parler pendant une demi-heure et t'es un bruit de fond. Si la première minute t'as choqué tout le monde, alors là, t'as tout le monde pendant une demi-heure.
Ça, tu l'as appris à cette époque.
Ça, je l'ai appris à cette époque. À l'époque, vraiment, où j'étais, j'arrivais sur scène et les gens étaient, genre, c'était des espèces de bars ou des, même j'ai joué dans des férias, moi, mon gars. J'ai joué au férias de Dax. Mais t'imagines, les gens, ils voulaient pas du tout écouter ça. Mais il y avait l'énergie, je les attrapais avec l'énergie.
T'avais déjà un look comme ça à l'époque?
Je détournais, par exemple, quand je jouais au férias, j'avais une espèce de slim rouge, slim Monday, j'avais des sables de toutes les couleurs. C'était très peu maîtrisé.
Après, les férias, c'est rouge et blanc.
Ouais, c'est pour ça que j'ai précisé rouge. Yeah. Mais ça, c'était pas la bonne coupe. Non, j'ai toujours. En fait, je me suis toujours habillé avec des trucs totalement bariolés et tout. Je voulais m'habiller comme les choses que j'aimais. Les choses que j'aimais, c'était la musique et les pochettes d'albums que j'aimais. Je voulais m'habiller pareil. Et j'adorais les visuels de Somi pour toutes les compilations d'Headbanger et tout. Du coup, je m'habillais vraiment de toutes les couleurs pour cette raison-là.
Ouais, c'est la génération un peu fluo kid et tout.
Ouais, grave, grave. Et après, c'était petit à petit, j'ai trouvé mon style petit à petit. Après, ça change toujours. Hein. Tu sais, c'est comme, je pense, comme dans la musique, comme dans la vie au sens large, on change toute notre vie.
Ouais, t'évolues, ouais.
Mais plus je grandis, plus je suis surpris à quel point on change. Tu vois, tout change dans la vie. Il y a des trucs que tu me le dis un an avant, je dis, mais pas du tout. Et en fait, tout change, tu vois, comme le fait d'avoir déménagé et tout, après cette tournée, c'est que des trucs où... Là, je me laisse surprendre par la vie de plus en plus.
Mais du coup, il y a... une notion de, parce que se laisser surprendre, donc c'est se laisser porter aussi, tu vois. Et il y a pas d'objectif, il y a pas de calcul, c'est tu fais ce que tu as envie de faire.
Je pense que j'ai toujours j'ai la folie en moi du début, toujours. Okay. ça m'a jamais lâché, vu que j'arrive vraiment de nulle part, que ce que je faisais au début, les gens s'en moquaient un peu forcément dans le cadre où j'étais. Ensuite, je suis arrivé, j'ai commencé à faire du son et je me disais, très vite, je me suis dit, mais j'ai l'impression que je dois bosser 10 fois plus que certains trucs que je vois parce que j'ai pas cette validation de certaines personnes ou cette hype. Ensuite, il y a des validations qui sont tombées, quand même des belles validations et il y a eu un peu quand même une petite hype au bout d'un moment. Mais j'ai jamais pris ça pour acquis. Même les publics, moi j'ai toujours la phobie que la salle soit vide, mais c'est vraiment fou.
Ouais.
Mon Olympia, j'avais peur que les gens se souviennent plus de la date. Mais c'est fou quand même, c'était complet à l'avance. J'avais fait avant l'Élysée Montmartre, c'était complet 6 mois à l'avance. Ah ouais, imagine ouais. Pour un mec qui a galéré toute sa vie à remplir des salles et tout, d'un coup il se passait le truc magique. J'annonce l'Élysée Montmartre, en 3 semaines c'est complet, c'est 6 mois avant. Donc je me dis, normalement 6 mois à l'avance, c'est le premier rang qui prend les places 6 mois à l'avance. Mmh. Donc là je me suis dit, toute la salle c'est le premier rang. Juste il est en zigzag. Et du coup je me suis dit, même la personne qui s'en fout, qui est au bar au fond, ça fait 6 mois il a sa place. Donc... quand la date est arrivée, je te jure, j'ai dit à mon booker, j'ai peur que les gens ils s'en souviennent plus que c'était là. Mais vraiment, et j'ai gardé ça. Le jour de mon Olympia, je me suis dit, oula, mais si les gens ils peuvent plus venir, et c'est fou. Donc j'ai gardé un peu cette folie du et cette petite rage, mais pas. Je suis pas quelqu'un d'aigri et tout, je suis toujours très positif, mais je le transforme en truc positif. Mmh. Mais j'ai ce moteur-là, tu vois, de. C'est pas pour rien que j'ai fait autant de dates aussi. J'étais crevé, prouvé. Tu me demandais comment je... Un jour j'avais un régisseur qui était là pendant un an et des fois il me disait, mais comment tu fais pour tenir, enfin, je donne beaucoup beaucoup en live et vraiment je finis en sueur et tout, et des fois il me disait, je sais que là il y a 2-3 noms dans le line-up, t'as envie de leur mettre 10-0 parce que c'est pas juste toi tout le temps que t'as mis là et que là c'est ton moment, t'es devant le public et tu vas pouvoir, genre la musique va parler ta manière de faire le live. Et en fait je lui ai dit, mec c'est fou mais c'est vrai, j'ai ce truc là d'énergie mais illimité. J'ai gardé la folie du truc qui marche pas.
Tu parlais de validation. Tu disais que tu l'as pas trouvé dans les Landes.
Ouais.
Ensuite, bon, alors il y a un passage par Bordeaux et tout, mais tu finis par arriver à Paris.
Ouais.
J'imagine dans l'optique de vivre de la musique.
Complètement, complètement.
Et tu vas la trouver, la validation, là, à Paris ?
Pas vraiment, parce que comme je te disais, je suis entre deux mondes. Je suis entre... l'électro, entre le monde de la pop. Je pense que c'est des barrières qui s'effacent maintenant.
Parce que l'électropop, ça fait longtemps qu'on fait l'électropop.
Tu sais, y a
c'est
quand
quoi
même
ta spécificité, toi, qui t'a fait galérer?
Il y a quand même les grandes familles, tu vois. C'est soit tu fais des sorties underground et genre, t'as une image un peu de DJ, de club, soit tu fais un truc plus live et il y a des paroles en français peut-être dessus. Ah. Et si, par exemple, t'as tourné avec Angèle pendant genre 50 dates, il y a un truc un peu très pop, grand public. Et souvent, cette barrière-là, elle tombe une fois qu'il y a du succès. Par exemple, à partir du moment où mon morceau Plus Fort, il a fonctionné, là, d'un coup, j'étais cool des deux côtés. Mmh. Parce que d'un coup, je remplissais des salles. Et quand j'avais accès aussi à des grandes scènes comme les Victoires de la Musique, donc des grandes scènes en termes d'audience, je faisais un auto-remix de mon track qui terminait à 145 BPM, comme une boiler room au milieu du public. Et ça, tout le monde me disait, mais comment t'as fait accepter ça aux Victoires de la Musique ? Et ça, c'était les trucs qui m'aidaient un peu à faire passer mon message.
Les barrières,
Et en fait, ce que j'ai fait au Victoire de la Musique, c'est ce que je faisais en live depuis 2-3 ans. C'est pour ça que j'ai autant aimé le live, c'est que c'est quelque chose en perpétuel mouvement. C'est un truc où il y a un peu une justice de... Si c'est vraiment cool, les gens adhèrent. Il y a un truc de challenge que j'aime bien. Et surtout, mon live, il était complètement barré. Il était complètement underground. Je me rappelle, quand j'ai fini ma résidence, mon booker me disait... Oula, les gens vont être paumés. C'est beaucoup trop violent. Il y a des moments où je chante pas pendant 17 minutes. C'est pas possible. Et en fait, c'est ce truc-là que les gens aimaient. Et c'est pour ça que même là, je vois, je suis en train de jouer en ce moment au festival des morceaux pas sortis, qui sont littéralement des démos qui sortent de mon ordi, qui ont ce truc-là complètement barré, complètement un peu violent parfois. Et les gens viennent chercher ça et kiffent.
On peut s'écouter un extrait pour remonter dans le temps, justement, de Bagarre Bagarre en 2020. Dont on
ah ouais, grave, avant même l'album, c'était au tout début.
Pourquoi pas Danse Encore ou autre chose?
Ouais, Bagarre Bagarre, c'est quoi? C'est... Je dirais Danse Encore, il a peut-être mieux vieilli, mais Bagarre Bagarre, il y a déjà... C'est quoi Bagarre Bagarre? C'est intéressant. Si c'est un morceau, je ne le referais pas pareil. Ouais. Mais il y a déjà un mélange totalement incompréhensible pour cette époque-là. Tu vois ce que je veux dire?
Donc tu veux qu'on s'écoute plutôt Bagarre Bagarre?
Ouais, vas-y,
allez,
on
va s'écouter un extrait.
J'étais seul, les cool mecs du lycée maintenant sont seuls. Comme dans un ascenseur, on s'est croisés en sens contraire. À l'époque, je faisais pas vraiment le fier. Je m'habillais déjà comme un arc-en-ciel. J'étais bien trop sensé, peut-être un peu trop sensible. J'ai jamais vu de modèle dans sa
animaux. Et s'il est trop tard, je reviendrai tôt.
Ouais, ça part.
Ouais, j'ai des interrogations sur. Parce que moi, je
moi
pense
aussi,
que...
j'ai des interrogations.
Allez, vas-y.
Non, en fait, je trouve que. Parce qu'on parlait off de ta vie actuelle,
ouais.
Du fait que tu bosses avec pas mal d'artistes, sans citer les noms, mais plutôt dans la sphère hip-hop, ce qui est assez marquant.
Ouais, ouais.
Hip-hop, t'es à New York,
ouais, ouais,
tu
ouais.
bosses avec des gens qui gravitent dans ce milieu-là. Et moi, la question, c'est est-ce qu'il y a des gens du hip-hop français qui t'ont contacté? Parce qu'en fait, ce que j'entends moi là, c'est du porc en fait.
Ouais, grave,
là,
un peu 808, là, un peu
jamais, on m'a jamais contacté dans le rap en France. Si ce n'est, il y a un jour un morceau qu'un gars a bien aimé, c'est Slimka. Mmh. Il a bien aimé, c'était pour un projet pour la marque Walk in Paris, ils avaient fait une mixtape. C'était un peu des crossovers comme ça. Et moi, il y avait un morceau qui traînait dans un disque dur que j'avais fait un peu de disco. Et Slimka l'avait bien aimé, donc j'avais fait un morceau avec Slimka.
C'est un mec hyper ouvert ouais, musicalement, un rappeur suisse.
Mais tu vois, Makala suivait pas mal ce que je faisais et tout, okay. Il m'envoyait des messages pas mal. Non, j'ai jamais été... Et là, pour le coup, à New York, quand je suis arrivé, c'est vraiment le hasard. J'ai traîné avec toute la clique de Kid Super et tout, qui sont une marque, mais une marque qui est un peu tout un écosystème. Ça, c'est plein de choses autour, c'est de l'art, c'est de la musique.
Le lifestyle.
Exactement. Et arrivé là-bas par cette porte, au final, je pense que ma manière de produire était différente aussi là-bas. Donc, je me suis retrouvé dans des sessions. Ça, il a montré, donc je peux le dire, mais j'ai fait des sessions avec A$AP Ferg, pas mal. Mmh. On va retravailler ensemble. On m'a présenté Jim Jones. Tu vois, c'est des noms qui sont où je me dis, mais jamais je me serais retrouvé à bosser avec eux. Et quand je suis arrivé, ils n'avaient aucune idée de ce que je faisais.
Mmh.
Et
ils ont vibé, en fait.
Ouais, grave. Et on commence des morceaux de zéro et... Et il y a un truc qui est différent, mais alors pour le coup qui ressemble pas du tout à ça,
ouais.
Mais il y a un vrai mélange, il y a une vraie curiosité qui est trop cool.
C'est ça, en fait, tu vois, c'est là où je voulais en venir, c'est que en fait les Américains, on peut les critiquer sur plein de points, mais musicalement ils sont toujours à la pointe et ils cherchent toujours des trucs, alors qu'en France, tu vois, c'est toujours pareil, nul n'est prophète en son pays,
bah,
tu vois.
Ouais,
bah, mon hypothèse,
ouais.
Parce qu'en fait, je pense que l'électropop, je pense que ça fait longtemps qu'on est habitué au son électropop, en fait.
Ouais.
Je pense aussi que les mélanges électronique-rap, ça fait aussi quand même pas mal de temps maintenant qu'on est habitué. Déjà en 2020, oui. On était largement habitué, etc.
Ouais.
Moi, je pense que ça tient à ta façon de chanter,
ouais,
à tes paroles et en français. Et effectivement, ça, c'est une barrière qui saute quand t'es aux États-Unis.
Complètement, parce qu'en plus, chanter en français, c'est cool aux US. Après, là, les morceaux que je prépare, ils sont en anglais, tu vois. Mais je pense que c'est parce qu'aussi, juste dans ma vie, ça faisait un an que je parlais que anglais dans mon quotidien. Donc, je pense que c'est pour ça que naturellement, je suis plus allé par là. Mais c'est aussi que ça m'ouvrait à des manières de chanter différentes. Il y a plus un truc de... Comme il y a toujours eu dans les morceaux, ce truc un peu de chorale et tout.
Ouais.
Mais un peu poussé. J'ai retrouvé mon amour de l'indie un peu des années 2010. Tu vois, des Grizzly Beer, Panda Beer... Tous les mecs avec ours dans le nom. Mais tu vois, cette vibe-là, elle est revenue pas mal dans la manière de chanter, mais mixée avec un peu une manière de faire de la French touch, mais à 135 BPM finalement, donc avec des tempos beaucoup plus hauts. Je pense que c'est aussi le truc de New York, un truc un peu plus énervé. Mais voilà, c'est des mélanges intéressants et je pense que on parlait des États-Unis, je pense que c'est même plus à New York qu'à une curiosité. New York, c'est la ville d'LCD Sound System, des Strokes. C'est la ville où il se passe. Il y a The Help qui sont là aussi, projet très intéressant.
On dit aussi souvent que c'est une ville quand même qui a un aspect un peu européen. En tout cas, vous êtes pour
l'échelle
des États-Unis.
Elle est plus proche, mais ce que je veux dire,
tout,
c'est
même
que...
politiquement et tout, on est plus on est quand même bien aligné que New York. New York, il y a un truc vraiment très cool.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que New York, notamment dans le milieu hip-hop, c'est là-bas que c'est né.
Ah, bien sûr, bien
et
sûr.
Les mecs qui sont, c'est des puristes de ouf, et donc l'intransigeance, etc. C'est de là-bas que ça vient, tu vois.
Bien
donc
sûr.
Le fait que même eux ils acceptent en fait d'ouvrir leurs horizons, de tester des trucs et tout.
Mais grave, tu sais, quand j'étais en session avec A$AP Ferg, il m'a dit à un moment, je commençais un truc hyper bizarre et tout, et il était en mode, je sais pas et tout. Et après, je commence à pousser le truc, et il était en mode, je veux que ce soit plus friqué encore, je veux que ce soit encore plus chelou. Et je sais pas si un jour ça sortira, tu vois, parce que c'est vraiment chelou, mais c'est trop bien. Et en fait, il m'a dit, moi, si je sors un album, il est dans la même cour que Kendrick, tu vois.
Mm.
Et Kendrick, t'écoutes, c'est lunaire les productions et tout.
Mm.
Donc, il y a un vrai truc. qui se passe, qui est cool en ce moment d'ouverture d'esprit. Grave. Où il y a moins le truc des cases et tout. C'est pour ça que ce que je disais, être entre deux mondes, ça peut paraître daté avec l'époque d'aujourd'hui. Mais attention, jusqu'à un certain point, je pense que c'est pas tant daté que ça. Ça dépend.
Parce que tu vois, je revenais sur ce truc, cette barrière qui saute aux États-Unis autour de la langue, autour de la façon de chanter, les paroles, etc. On disait faire de la musique joyeuse, c'est pas évident. La plupart des musiciens d'ailleurs vont le dire. C'est vrai qu'un peu plus naturellement, quand je compose à la maison, quand j'ai envie de jouer un truc, je vais faire un truc un peu triste, des chansons d'amour un peu déçues, des machins, etc. Bah, voilà, c'est l'histoire de la musique aussi, tu vois.
Moi, ça sonne pas niais, il y a un truc un peu plus. Ouais.
Et tu vois, je trouve qu'il y a la difficulté au niveau des sonorités, de l'instrumentation, de machin, etc. Ça, effectivement, déjà, c'est difficile de faire de la musique joyeuse comme ça. Ouais, mais alors, écrire des paroles positives, joyeuses, etc. Là, avec l'exigence française, en plus, dont tu parlais tout à l'heure, bah, Daz,
tu parais con.
Et c'est trop dur, en fait. Grave.
Tu sais, moi, j'ai eu un moment où ça m'a fait un déblocage. C'est le morceau qui a marqué, plus fort, qui a marché, c'est marrant parce que c'est un morceau qui a été fait en 20 minutes. Et c'est pas pour faire genre, c'est vraiment, il a été fait en 20 minutes. Et ensuite, lorsque j'étais à Motorbass, une fois que j'avais fini tous les morceaux, c'est un morceau que j'ai ajouté à la dernière minute et qui n'est pas produit. Il y a une basse, une batterie, on a fait des vrais violons et tout. Hein. J'ai écrit des parties de cordes et tout. Mais c'est un morceau, la composition en elle-même, elle a pris 20 minutes et j'étais en studio. C'est le seul morceau que j'ai co-écrit. Et j'étais avec Oli en studio, Big Flo Oli. Et il avait écouté mon album, il m'a dit « J'adore, c'est hyper libre, mais les gens, ils vont rien comprendre. » J'ai dit « Oui, je pense que je sais, mais... » Écoute, je l'aurais fait jusqu'au bout cet album. Et il m'a dit, ton album, il me fait me sentir plus fort. Il faut que t'aies un morceau qui donne la clé aux gens pour entrer dans ton monde. Et ce morceau, il s'appelle Plus Fort. Et c'est marrant.
Quoi, tu vois ?
Et il m'a dit, avant de démarrer le morceau, il m'a dit, ça va être ton plus gros morceau. On a mis 20 minutes parce qu'après, on bougeait du studio. Et moi, j'ai commencé à mettre les accords et on a commencé à écrire le texte. Et j'ai une vidéo de ça. Je l'avais mis sur, elle est dispo sur YouTube. Il y a une vidéo de ça où tu vois vraiment réellement que dans ce rush de 20 minutes qui était un peu coupé, chaque phrase qu'on dit est finie dans le morceau. Et il y a un moment même, il me dit « Oh là, tu dis « je t'aime » dans le morceau, ça choque. » Les gens, ils sont en mode « Oula, oula, ça gratte l'oreille, c'est pas bien. » Mais en fait, ça attrape les gens. Et tu vois, il m'a mis un truc où j'aurais jamais fait solo, ça. Et après, ce morceau, j'ai appris encore plus à l'aimer avec tout ce qu'il a raconté. Mais c'est, tu vois, l'oreille, elle évolue même du public et tout. Il n'y a pas les mêmes choses qui te dérangent l'oreille. C'est pour ça qu'il y a des choses qui vieillissent bien et des choses qui vieillissent mal. Mais tu vois, quand on a réécouté Bagarre, tu vois, je ne ferai plus jamais un morceau comme ça. Et pourtant, là, quand j'écoutais, j'ai une petite émotion dans ce que ça raconte et tout. Je me suis dit, tiens, je ne chanterai plus comme ça, je sais. Mais par contre, c'est un beau moment de ce que ça racontait, tu vois, c'est...
C'est un instantané.
Ouais, exactement. Oui.
Je pense qu'il y a un truc aussi qui joue. En tout cas, moi, j'ai ce rapport-là à ta musique, ça n'engage que moi. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je regrette qu'il n'y ait pas eu assez de morceaux depuis.
Ouais, bien sûr. Alors là, pour le coup, il y en a beaucoup qui vont arriver.
Tant mieux. Parce qu'en fait, je trouve aussi quand même que c'est un album où ressort une certaine forme d'adolescente, un peu, tu sais, aussi.
Grave.
Quand même. Et ça aussi, je pense que c'est difficile à défendre une musique donc joyeuse,
complètement,
en français,
complètement.
Adolescente, avec des thèmes... On sent que t'es sincère, mais on peut se dire qu'il y a une forme de naïveté aussi, tu vois.
Mais bien sûr.
Et ça, totalement. Pour être pris au sérieux, pour dire ce mec... Parce que l'adolescence, quand elle est un peu rebelle, oui, ça c'est cool.
Mais
l'adolescence gentille, qui parle...
Grave,
c'est un peu moins intéressant,
mec,
tu vois.
Très vrai, c'est très intéressant comme discussion, parce que je pense que mon live, vu qu'il était très méchant, le live, il avait vraiment un truc très violent. Je pense que ça a contrebalancé tout ça.
Oui, en fait, c'est ça.
Et pour moi, j'avais toujours fait des lives comme ça. J'ai toujours fait des lives hyper énergiques et très rentre-dedans. Mais je pense aussi, j'ai pas osé non plus sortir beaucoup de musique. Enfin, bon, déjà, j'étais dans un rythme, comme tu disais, 300 dates en 3 ans. Donc, c'était dur d'avoir du temps. Mais surtout, j'avais une petite pression. Je me disais, faut que... Cet album, il est sorti comme ça, et maintenant, il faut que je mûrisse, que je grandisse. J'avais déjà cette ambition de faire la musique que je fais là maintenant. Ça m'avait montré aussi la tournée qu'en partant de rien, sans avoir de médias ni rien, on pouvait arriver à un truc énorme, avec des gros remplissages et tout. Donc, ça m'a remis aussi une petite confiance et une petite ambition, et je me suis dit, tiens, je vais reprendre cette énergie-là du début. Je garde toujours un peu ma naïveté, entre guillemets, parce que je trouve que c'est le seul moyen de... résister au cynisme du monde total, tu vois, de s'émerveiller encore un peu.
Il faut que tu aies une singularité aussi, quand même.
Ouais, bien sûr. Mais par exemple, le fait d'avoir des mouvements radicaux dans ma vie, comme après cette tournée, tout quitter pour aller recommencer à zéro à New York un peu, c'est un mouvement ultra radical, mais qui remet un peu une joie et une naïveté dans la vie, tu vois.
Ouais, donc tu te réinventes, en fait, pour garder la fraîcheur.
Et à la fois, quand je vais à New York, je suis dans mon iPod de quand j'avais 12 ans. Il y a le CD Sound System, il y a les Strokes. Mais vraiment, littéralement, c'est des gens que j'ai croisés, tu vois, physiquement à New York. Donc je me dis, oh waouh! Ok, c'est trop cool. Ça garde le truc d'adolescent, tu vois.
C'est dingue.
Alors que la musique va être peut-être avoir une étiquette moins adolescente. Et pourtant, moi, c'est la musique que j'écoutais en étant ado. Mais c'est aussi la musique, c'est un cycle, tu vois. C'est,
bien sûr.
Ça se répète.
Et bah, tu sais quoi, on s'écoute Bébé Danse, Bibi Dance, je sais pas comment faut le dire.
On peut dire comme on veut.
On peut dire comme on veut.
Qui
est ton dernier single avec Theophilus London pour voir un peu le son d'aujourd'hui.
Carrément.
It feels good to move, dance, groove, yeah, baby. Ooh. It feels good to move, dance, feel. Si je danse tout le seul.
C'était drôle, c'est drôle parce que là de réécouter, ça m'a replongé dans. J'étais en train de me dire, c'est toute l'histoire de ce morceau, c'est vraiment un film. Et des fois, je me dis là, dans les derniers mois, je vis que des moments où je me dis, mais la vie est un film parfois.
Tu l'as composé là-bas, bébé non ?
J'ai tout composé là-bas. J'avais beaucoup de maquettes, donc ce qui me faisait du bien, c'est d'être sorti du rythme de la tournée, d'être dans un endroit aussi où personne me connaît. Et il y avait encore, comme je disais à chaque fois, le côté challenge, il y avait vraiment je retrouvais la rage du début, tu vois, comme je l'appelais tout à l'heure.
Attends, comment? Parce que c'est une logistique aussi, c'est surtout un coût économique, c'est une des villes les plus chères du monde.
Ah mais bien sûr.
C'est un move, tu te dis aussi, c'est pour ma carrière, enfin tu vois, c'est pas qu'un truc perso, il y a
grave.
Aussi un truc, ouais.
Tu sais que j'ai perdu beaucoup d'argent, oui, parce que ça coûte, New York, c'est horriblement cher. Il se trouve qu'au bout d'un moment, j'ai trouvé un endroit où dormir et pas payer de loyer.
Okay.
Ça a changé ma vie. Mais ça, pareil, c'est tous les enchaînements. Pour la faire en très court, comment j'arrive à New York? Je suis avec mes amis de Kids Super qui sont devenus les rois de New York et les rois de la Fashion Week à Paris. Mais il y a 7 ans, personne les calcule. Ils sont vraiment en galère. Moi, à ce moment-là, je vois le truc qu'ils ont, genre d'avant-garde totale et dans les idées, la liberté artistique. Donc, Colm Dehane, le créateur de Kids Super, il commence à me dire, toi, t'es pas parisien, t'es new-yorkais, mais tu le sais pas encore. Je dis, non, je pense pas, j'adore Paris et tout. Il me dit, non, toi, tu gatekeep rien, tu me donnes tout.
En fait, il avait pas dit new-yorkais, il avait dit landais. Ouais. T'avais pas compris, quoi.
Et il me dit, non, t'es new-yorkais. Et alors, après, je commence aussi à passer du temps à Londres. Je travaille avec des gars qui s'appellent Joy Anonymous, qui vivent avec Fred Again. Ils sont dans une grande maison. Et eux, ils venaient de passer genre un mois à New York où ils avaient vécu dans la maison où je vis là actuellement. Okay. On fait des sessions ensemble, ils kiffent bien, le courant passe bien, on s'invite sur des trucs. Moi, j'invite Joy Anonymous dans des soirées, ils m'invitent à jouer dans des soirées. Et au bout d'un moment, ils appellent mon ami Gordon qui est à la maison où je suis en ce moment. Ils lui disent, faut que tu rencontres ce mec, il est trop cool et tout. Donc, on se rencontre et c'est là où j'arrive dans une maison du coup, où je commence à faire de la musique tous les jours. Et j'arrive à New York en me disant, je démarre tout à zéro. Mais vraiment, j'y vais en mode mission. Et je retrouve la folie du début et à la fois, je retrouve un truc hyper excitant et à la fois un truc d'humilité totale. Parce qu'en fait, en vrai, beaucoup de gens me disent, mais qu'est-ce que t'es parti faire à New York? Qu'est-ce que c'est l'idée? Tu veux conquérir l'Amérique? Non, en réalité, c'est le choix le plus humble de ma vie. C'est, j'enlève tout le superflu, tous les à côté, tous les trucs où quand t'as du succès, c'est un peu cool, tu peux t'enfermer dans une petite bulle. J'enlève tout ça. Je sais même plus où je dors. J'ai même plus d'appart, tu vois. Et je redémarre. Et à New York, je repars de zéro. Je trouve un club et je me mets à faire des sets dedans. Et j'ai une résidence qui commence. Donc tous les mois, je vais jouer des nouveaux morceaux. Et là, le moment où je joue des nouveaux morceaux, bah, le public américain, ils s'en foutent que ce soit mon morceau ou pas mon morceau. Ils veulent juste passer un bon moment, danser. Et donc là, je me reconfronte à une vraie vérité. Un public dont je connais pas les codes, mais qui a une vraie curiosité. À New York, c'est ça aussi que je suis venu chercher, qui attend de la qualité. Et je fais des nouveaux morceaux. Et genre, là, les gens dans le club, c'est soit ils dansent, soit ils dansent pas. Et du coup, je me reconfronte à un jugement direct.
C'est hyper intéressant parce qu'il y a l'aspect compo, machin, etc. Le réseau quand même de la musique, ce qui te permet aussi quand même de t'installer à New York, c'est le réseau musical.
Bien sûr. Quand je dis que je repars de zéro, c'est vraiment genre les gens qui m'ont... Mais une fois de plus, c'est que des contacts qui se sont faits au moment où entre guillemets, ça marchait pas, tu vois. Mon ami Kid Super, ça galérait de fou au moment où on s'est rencontrés, pour moi aussi.
Le réseau, c'est hyper positif.
Pareil, c'était avant qu'il y ait toutes les tournées mondiales avec Fred Again et tout. C'était quand même au tout début. Et en fait, ce réseau-là d'entraide, parce qu'au final, je pense que c'est que des gens un peu en galère et qui, au final, commencent à s'aider. Et c'est une suite de miracles qui me font arriver là. Et à la fois, moi, je suis de la team qui dit qu'il n'y a jamais de... Le destin, tu le provoques, t'enfonces les portes,
pas
tu,
de destin,
tu
pas
lâches rien. Voilà, mais vraiment, moi, je suis un enfonceur de portes, quoi. Ouais. Donc j'arrive et je lâche rien. Et je me dis, cette ville, il y a un truc qui m'attend là-bas, mais je sais pas encore quoi. Donc je commence à y passer du temps, je fais tous mes trucs pour avoir un visa et tout, pour pouvoir jouer, être en règle et tout, pour pouvoir y passer du temps. Et à un moment, je rentre de New York, j'y avais passé 3 mois, et je reprends une dernière partie de ma tournée. Sauf que je suis en retard pour la résidence, je suis en retard pour monter le nouveau live, et on a toute une tournée où il y a quand même l'Olympia et tout. Et je rentre et je commence à préparer le live, et je sais pas pourquoi, moment de folie. En plus, j'avais dépensé tellement de thunes et tout à New York, j'étais pas à plaindre, j'étais pas en galère, mais je commençais à me dire, oula, attention, parce que quand même. Et j'y repars. Alors que vraiment, je laisse la résidence un peu en plan, je décale de 3 semaines la résidence, j'arrête pas de la décaler. Donc tout le monde devient un peu fou dans l'équipe en mode, est-ce que Julien, il est pas en train de péter un câble? Et même moi, je me dis, que suis-je en train de fuir?
Ça y est, le New Yorkais, là.
Non, mais je me dis, qu'est-ce que je suis en train de fuir? Parce que c'est fou quand même, je suis en train de m'échapper, là. À quoi j'essaie d'échapper et tout? Et non, au final, j'essayais pas d'échapper à quelque chose. J'essayais d'entendre un peu les signaux. Je me disais, il y a quelque chose dans cette ville qui m'appelle, je sais pas encore quoi, mais. Je sais que j'ai des choses à faire ici.
Mais il y a aussi quand même pas mal d'histoires de mecs talentueux, français ou pas d'ailleurs, qui partent à la grande ville et qui se font niquer. Tu vois, enfin.
Ah, bien sûr.
Tu vois, tu peux, toi, proposer une prod pour un gars qui a un super squal et en fait.
Non, mais c'est impitoyable. Je veux dire, il n'y a pas de règles.
Comment tu fais, toi, pour te protéger, en fait, t'es entouré,
J'ai toute mon équipe, tu vois, j'ai un label, un booker, un manager. Mon manager a toujours été le même depuis le début, donc tu vois, ça fait 10 ans, donc il a tout connu, toutes les phases, le début, un EP qui fonctionne pas, des premières parties, il a tout suivi et il a jamais lâché. Mais je pense que dans la vie d'un artiste, au bout d'un moment, je pense quand ça marche pas, tu dis oui, j'ai pas eu assez de promo, on a pas assez de parler de moi et tout. Et puis parfois, je sais pas, moi dans mon cas, ça a été d'aller enfoncer les portes des festivals et y aller petit à petit. Et après, avec le recul, tu dis, ah, mais peut-être qu'au moment où ça fonctionnait pas, peut-être que même si je faisais la musique sincèrement, je faisais peut-être une musique que moi-même j'aurais pas écoutée. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est un peu de mûrir, je pense. Et surtout de se dire, ça a pas marché parce que peut-être qu'il y a pas eu de promo, on n'a pas parlé de ça. Bah, parfois c'est vrai, parfois c'est pas vrai du tout. Je pense qu'il faut jamais se reposer ni sur un label, ni sur ses acquis. Il faut toujours, se remettre en question et aussi il y a beaucoup de débats là en ce moment on est quand même tellement dépendant d'Instagram, des réseaux sociaux, tout ça. Les gens, ils sont de moins en moins dessus, ils vont de moins en moins mettre des likes ou suivre des nouveaux projets. Donc ce qui était un peu la solution pour contrer tous les médias maintenant devient un problème. C'est des questions de riches, mais aussi tu dis, les intérêts des gens changent, la capacité d'attention des gens change. Tu vois, même quand t'es musicien, tu dis, les gens peuvent plus rester 2 minutes sur une vidéo. je pense que moi-même, je ne resterai pas deux minutes sur une vidéo de quelqu'un que je ne connais pas. Donc, moi, j'essaie toujours de prendre beaucoup, beaucoup de recul et de rien prendre personnellement quand ça ne marche pas, de rien. Et de me battre un peu avec ces armes-là, tu vois, de plus être.
Ouais, mais du coup, quand tu fais des choix, est-ce que tu as des gens autour de toi qui te disent quand même, hey, fais attention, on sait jamais ou...
Ah, mais alors, quand je suis parti, quand j'ai annoncé que je partais à New York, t'imagines bien que.
Ouais, déjà, bon.
Tout le monde me disait, tu vas perdre ton public, les gens vont pas comprendre, qu'est-ce que c'est que ce choix, personne te connaît là-bas. Sauf que moi, j'étais persuadé que c'était des choses fausses. Mais je pense que j'ai eu la chance que mon entourage proche, label, manager et tout, ils ont très vite compris quand ils ont vu la musique que je leur envoyais aussi avec.
Oui,
ils se sont dit,
rassurés,
ok, c'est cool. Et je
là,
pense,
là, ça fait combien de temps que t'es là-bas là ?
Ça va faire un an à peu près. Après, j'avais passé beaucoup de temps en moment fragmenté entre les dates. Là, ça va faire un an, je pense. Mais vraiment que j'y reste non-stop, c'est depuis septembre là. Donc ça va faire une année,
et
une année scolaire.
Toi, quand tu t'installes là-bas, tu te dis, je me vois encore là-bas dans 5-6 piges ou...
Je sais pas, moi je me laisse surprendre par la vie toujours, donc je me laisse cueillir. Là j'ai l'impression que oui, mais on sait jamais. Tu m'aurais dit il y a un an, tu lâches tout pour la New York, j'aurais dit, est-ce que je suis en train de faire un burn-out ? J'ai déménagé, les gars, j'ai déménagé la semaine où j'ai fait mes 30 ans. C'est pour ça que je me suis dit, mais c'est fou, je suis en
crise.
Une crise.
Crise.
Mais je te jure, je me suis vraiment posé la question au premier degré, je me suis dit... Julien, mais qu'es-tu en train de fuir ? Qu'est-ce que c'est que tu fuis ?
Toi-même ?
Oui, mais j'étais un peu deep comme ça, je me suis dit, mais
je fais n'importe quoi. C'est un excellent indicateur aussi de ta propre santé mentale, finalement. Le fait que tu sois en train de te dire, mais qu'est-ce que j'étais en train de fuir ?
Ouais.
C'est que tu as déjà fait le travail de te poser des questions.
Bien sûr, je passe toujours du temps.
Bien
sûr. Bah, c'est gentil.
Tu vois, il fait de la musique joyeuse,
il a
naïve,
il sait où il va.
Ouais,
bien sûr.
Et aussi, j'avais un truc, je perdais ma joie aussi là, dans les derniers mois.
Ah.
Je trouve que tout ce qui se passait niveau musique, je sais pas, j'étais peut-être trop surconnecté, mais j'avais un surplus d'infos que.
T'es blasé ?
Ouais, je sais pas, tout prenait trop.
Saturé.
Ouais, dans l'industrie et tout, je trouvais que ça manquait de vérité, tout prenait trop de place, tout est mélangé maintenant, la musique, les influenceurs, la mode, la fashion week, tout ça. Et bah, j'étais dans un trop plein de tout ça, j'allais plus vraiment au. Je me faisais de plus en plus discret, quoi. Et quand je suis allé à New York, ça a remis un peu, sans être trop cliché. La vérité au centre, c'est-à-dire c'est une ville, ça coûte, comme tu disais, tellement cher que tous les gens qui y vont, franchement, s'ils font de l'art et qu'ils font ça pour faire de l'argent, c'est pas la bonne ville au départ en tout cas, parce que vraiment, il faut être fou pour rester. Et je pense que ça fait le tri de, il y a un vrai truc de tout le monde vient pour quelque chose.
C'est une ville ceux qui cherchent la rentabilité, ils vont pas là-bas.
Pas au début, en tout cas.
En termes d'industrie, les sessions que tu fais, etc., un truc qui te marque la différence avec la France ?
La curiosité, l'expérimentation et le nombre de gens dans le studio. Quand je fais des sessions avec des rappeurs, genre à sa peur et tout, il y a toujours plein de gens et tout dans le studio. Mais je pense que je dirais plus l'expérimentation. Je crois que New York, c'est une ville qui est tellement grande que les gens savent. Alors là, je ne parle pas des plus gros artistes, mais plus les petits artistes comme moi. Il y a un truc de... c'est l'underground qui prime à New York quand même. Souvent, les projets qui pètent à New York, c'est des trucs underground à la base et ils deviennent grand public après ailleurs. Je pense à The Dare, par exemple. The Dare qui est un producteur, il y a un son très électro-clash avec des gros synthés et tout. Ça, c'est des trucs qui ont fonctionné à New York et qui après marchent ailleurs. Donc le fait que tous les jeunes artistes, la différence, c'est qu'ils sont plus dans une recherche de quelque chose de singulier. Plutôt que d'essayer de se dire « avec ça, je peux passer à la radio, avec ça, la radio n'existe pas ». Enfin, à New York, c'est pas du tout une stratégie, si tu veux faire un truc dans New York, d'être à la radio, quoi. Vaut mieux faire de la bonne musique, être cool. Et ça, cette vérité-là, franchement, ça m'a surpris. Et aussi, le rythme de taf. Je vois des gars passer leur nuit en studio, leur journée. Il y a un truc vraiment admirable là-dessus. C'est vraiment des chercheurs d'or, quoi. Et ça me plaît. Il y a un truc vraiment, parce qu'à force de passer autant de temps, ils trouvent des trucs cool. Chaque fois, tous les projets que j'écoutais, il y a toujours un truc singulier et cool.
On a parlé de ces histoires de territoire, de New York, machin, etc. Il y a un autre élément essentiel dans ta carrière, dont tu vois absolument qu'on parle, Tu l'as évoqué d'ailleurs, c'est les aspects aussi de communication, entourage. Parce qu'en plus, tu as un pied un peu aussi dans le milieu de l'influence. On t'a beaucoup vu dans des vidéos YouTube. Tu traînes, tu vois, avec Léna Situation, qui est une amie, des choses comme ça, etc.
Bah, il a les codes, quoi.
Voilà. C'est sûr. Et en même temps, il y a un paradoxe, c'est que tu nous dis, tout se mélange, la mode, la musique, l'influence, les réseaux. À un moment, j'ai sursaturé. Et en même temps, t'es le premier à avoir joué avec ces codes.
Ouais, bien sûr. En fait, ce qui est marrant, c'est que là, pour le coup, le seul truc où on m'a vu sur vraiment sur YouTube à proprement parler, qui est maintenant le mélange sur les youtubeurs sont influenceurs, influenceurs youtubeurs, le seul moment où on m'a vu sur la plateforme, c'était avec Léna. Ce qui est marrant, c'est que Léna, on s'est rencontré
avec Ben Nevers, avec
Ben, qui a moins ce truc un peu peut-être d'influence. Kian pareil, qui vient, c'est plutôt des gens qui ont fait autre chose avant de... Léna, on s'est rencontré vraiment dans la vraie vie pour le coup. Elle me voyait passer, on était voisins, et elle se demandait qui était le gars avec les cheveux bleus. Voilà, j'ai les cheveux bleus à la base. Elle m'appelait le fou du quartier avant de me rencontrer.
Ah, sympa.
Et elle disait à tout le monde, il y a un mec avec les cheveux bleus, il rit fort, il parle fort, et à chaque fois je passe, je le croise, il est toujours avec des gens différents, il a l'air marrant, j'aimerais bien le rencontrer. Mais comme ça, tu vois, jusqu'à quelqu'un lui dise, bah, s'il a une moustache, je pense que c'est ce mec-là. Donc bref, on s'est rencontrés comme ça. On avait des pop cultures très différentes et tout, ce qui a été vraiment une blague au début. On avait l'impression de se comprendre sur rien. Mais à la fois, on avait une énergie, on s'est rejoint très vite sur une énergie, une folie un peu commune, soit d'ambition ou d'une folie créatrice, soit de se dire « Ah, on veut faire ça, on veut faire ça ». Donc, c'était une histoire d'amitié qui a débouché sur le fait qu'elle, elle a des vlogs qu'elle fait au mois d'août. C'est ça qui l'a fait connaître, de faire des vidéos tout l'été au mois d'août. Et un jour, elle m'a dit, bon, écoute, moi, t'as passé trop de temps dans ma vie, là, tu vas faire partie de cette série. C'est juste ma vraie vie que je filme au mois d'août. Donc, c'est comme ça que j'ai débarqué là-dedans. Je pense que même pour plein de gens, alors, c'est à double tranchant. Il y a beaucoup de gens qui m'ont découvert grâce à ça.
Pour ta musique, pour ta carrière, tu veux dire.
Ouais. C'est-à-dire que, par exemple, je vais te donner un exemple concret. Léna, un jour, elle a mis mon son plus fort dans une vidéo. Et elle n'a pas du tout dit que c'était mon son ni rien. Et je me rappelle, on m'avait envoyé des bouts de la vidéo en disant « Ah, il y a ton son dans la vidéo de Léna ». Et moi, je m'étais dit « Ça ne va rien changer, vu que de toute manière, elle n'a pas dit « C'est le son de mon pote ».
Elle
ne
l'a pas tagué. Voilà. Ouais.
Et en fait, ça a déclenché une vague de Shazam. Mmh. Folle. Ce qui ne se passait pas forcément.
T'as une limite du chiffre, tu vois.
C'était vraiment, c'était de l'ordre de 8-9 000 Shazam. Je sais parce que j'étais en top Shazam carrément, d'un coup. Mais ce n'était pas un truc qui se passait... quand elle mettait des musiques, c'était pas un truc genre dit, c'est pas parce qu'elle est très suivie qu'il se passe ça à chaque fois. Et un jour, elle m'avait dit ton morceau, je savais que les gens, j'avais pas besoin de leur faire écouter, ils avaient besoin de l'entendre. Et je trouvais ça malin.
C'est stylé, ça.
C'est stylé. Et du coup, bref, ça, tu vois, beaucoup de gens m'ont découvert là-dessus, mais il y a aussi plein de gens qui disaient, mais j'ai vu ce mec-là en première partie d'Angèle il y a genre 2 ans. Donc tu sais, c'est une suite de plein de petites années. Donc ouais, beaucoup de gens, moi j'adore ça parce qu'il y a plein de gens qui m'ont découvert avec et. Ça a été cool, ça a été très vite relié à la musique. En fait, j'étais vraiment le pote musicien. Mon rapport au monde de l'influence, ouais, il est très... Là, moi, j'ai toujours... J'ai de plus en plus de mal parce que je trouve qu'il y a trop d'exemples. Là, je trouve que l'influence a pris trop de place dans le monde des marques, dans le monde de... Même à la Fashion Week. Et vraiment, je veux pas faire le boomer qui casse tous les influenceurs, mais... Il y a au milieu certaines personnes qui pourraient utiliser leur plateforme pour faire des choses meilleures ou donner un peu plus de force à des jeunes artistes. Ce que, à mon humble échelle, je pense faire beaucoup. Je partage toujours de la musique de nouveaux artistes. Je réponds beaucoup aux messages. Dès que j'ai l'occasion de pouvoir connecter des gens, il y a des dizaines de personnes dans ma vie qui bossent avec des gens maintenant. Je les ai connectés mais vraiment par pur plaisir et par pur truc de... J'essaie d'être... l'artiste qui m'a manqué quand je galérais, quoi. J'essaie de toujours être l'artiste que si je m'étais croisé quand j'avais genre 18, 19, 20 ans et que je galérais, qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on m'apporte, tu vois.
Parce que c'est je comprends que tu cherches une approche vertueuse de tout ça.
Ouais, bien sûr.
Mais après, c'est un système aussi.
C'est un système.
Ce que je veux dire par là, grave. C'est que tu l'as dit, il y a des gens qui te chasament après qu'ils te découvrent.
Ouais, bien sûr.
Tu peux quand même y trouver un intérêt. Ce qui n'est pas d'ailleurs un mal en soi, tu as le droit d'y trouver un intérêt, de le chercher,
bien
tu
sûr,
vois.
Bien sûr, bien sûr.
Le fait d'avoir aussi une visibilité, bah, peut-être que des marques vont te contacter pour ensuite travailler avec toi. On sait que pour beaucoup de musiciens, notamment le luxe, pas que, et je crois que c'est ton cas aussi,
Bah,
mine de rien, de temps en temps, ça donne quelques opérations. Alors, soit des campagnes, tu l'as fait avec Christian Louboutin.
Tu sais, je l'ai fait avec Christian Louboutin, mais j'étais pas du tout exposé comme aujourd'hui, au moment où je l'ai fait. Et je me souviens que ça a été un sujet quand ils ont commencé à parler de moi en réunion et tout. Apparemment, il y a une réunion marketing, on m'a donné les dessous. Quelqu'un a dit, on va pas vendre beaucoup plus de chaussures avec lui parce que personne le connaît. Okay. Et Christian Louboutin a dit, on va pas vendre beaucoup plus de chaussures, mais on va être les plus cool. Mmh. Donc, on va vendre beaucoup plus de chaussures.
Malin.
Donc, et en vrai, ça m'a appris quand même un truc marrant, c'est que à ce moment-là, j'avais pas du tout la grosse exposition, j'avais pas du tout la hype et tout. Mais je me suis dit, mine de rien, je fais mon truc dans mon coin. Et ça m'a fait prendre confiance à moi. Je me suis dit, je suis cool. Et mais, ça, on peut pas l'acheter. On peut pas. C'est le coup.
Mais ça ouvre quand même des portes visibles.
Grave.
Et dans le modèle économique, aller faire des DJ sets pour des marques, etc.
Bien
sûr. Ça fait vivre même des
artistes. Ah, mais grave. Mais moi, je pense que c'est une bonne chose que les artistes fassent ça parce que. Alors, ça dépend avec quelle marque, bien sûr. Il faut toujours que ce soit.
Tu le fais beaucoup, toi ça fait pas, dans ton modèle économique.
Ouais,
c'est
en fait.
Un truc, hein.
Tu sais quoi? Moi, mon modèle économique, il est simple. C'est que tout passait que par le live. Parce que. Voilà. Et bizarrement, l'année où j'étais le plus programmé des festivals, je n'ai pas gagné beaucoup d'argent. Parce que mon live, j'ai décidé de coproduire la tournée et on a mis beaucoup d'argent dessus. Parce que je voulais justement, comme je disais plus tôt, ce truc de j'ai qu'une seule chance pour faire ma première impression. J'ai tout mis dans le live. Donc ça passait par, on n'a pas fait une scène énorme, mais par contre il y a des caméras pour que je puisse connecter avec les gens.
Parce qu'en tant que producteur et coproducteur, vous financez les lives.
Exactement. Et en fait, je suis parti avec un camion, avec un tourbus, avec des techniciens, techniciennes. En fait, j'ai pas gagné beaucoup d'argent. Par contre, je savais de par mon expérience de l'image, de jouer avec les codes et tout, je savais que ça allait me changer de game. Je savais que ça allait me mettre une image. D'un plus grand artiste.
Donc,
quoi.
Tu veux dire que tu as sciemment dit, je vais me faire des cachets moins importants, qu'on va plutôt réinjecter dans le financement du live pour que ça paye plus tard.
J'ai touché le cachet d'intermittent basique. Et en gros, mais je faisais la plus grande tournée de ma vie. Et je passais dans un autre propos d'un coup. J'étais avec une autre envergure. Et après, par contre, sur la suite de la tournée, l'été d'après, là, j'ai gagné plus d'argent avec ça. Donc, le live restait vraiment après, ensuite, ma manière première de vivre. La SACEM aussi, parce que j'ai eu la chance de passer à la radio au bout d'un moment. Et surtout, la SACEM te donne de l'argent pour les droits des concerts aussi. Donc, ça, c'était mon moyen de vivre. Et après, bien sûr, il y a quand je m'associe à des marques pour faire un DJ set, pour une after party à la Fashion Week. Ça, c'est des moments où, genre, dans la mode, c'est vrai qu'il y a peut-être plus d'argent que dans la musique actuellement pour un certain type d'artiste. Mmh. Et je trouve que c'est bien, c'est parce que quand c'est une marque cool qui ramène un artiste, justement, qui n'est pas le plus gros artiste du monde, tu vois, ils viennent chercher de la différence et tout, je trouve ça bien. Il y a des belles histoires qui se créent. Moi, je ne suis pas du tout anti-partenaire de marque et tout. Je vais même te dire, il y a des partenariats, notamment avec, je sais pas, des reventes de téléphones conditionnés, Back Market, tu vois, où je trouve que c'était un truc cool, c'est comme Vinted, tu vois, c'est des trucs de. J'ai fait ça pendant ma tournée et les gens, ça les a pas dérangés parce qu'en fait, je racontais ma tournée à travers ça quand il y avait un post qui parlait de ça et ça m'a aidé à financer ma tournée. Pour le coup, j'ai pas pris l'argent pour moi, je l'ai mis sur la tournée. Donc, ça, par exemple, tu vois, c'est des manières de financer, d'aller au bout.
Oui, je pense que c'est.
Mais je pense que c'est toujours bien quand il y a.
Win-win comme ça.
Ouais, quand c'est win-win et qu'il y a un propos avec, tu vois. Quand il y a soit un message cool, soit c'est genre ça va financer la tournée. Moi, je suis toujours assez transparent avec les gens. Là, j'ai fait une collab avec une marque de vêtements, mais le sujet, c'est que c'est un tremplin où les jeunes artistes ils vont poser. Donc ça, c'est gratuit, quoi. Ils posent sur une prod que j'ai faite. Et en fait, les trois préférés du jury, c'est même pas un truc où il faut avoir le plus de followers. Donc les trois préférés du jury qu'il y a, ils peuvent faire un petit clip.
Partie du jury ?
Non, je fais pas partie du jury, comme ça c'est au moins. Et le gagnant, tu vois, il va gagner de l'argent pour son projet. Donc, je participe à des projets quand il y a ça. Mais comme tu disais, c'est intéressant parce que de l'extérieur, je pense qu'il y a des gens que ça peut perdre. Moi, je comprends totalement. Quand j'étais le plus programmé des festivals, je sais qu'il y a des gens qui disaient, mais oui, mais c'est parce qu'il est pote avec Léna Mapouf qu'il est le plus programmé des festivals. Et dans la tête, je me disais, mais si vous saviez à quel point ça marche pas comme ça. Ce serait carrément l'inverse, entre guillemets, tu vois ce que je veux dire? Les festivals où je passais, c'était des progs, des beaux line-up avec, je veux dire,
le côté
où on m'a vu. Ouais, bien sûr.
C'est ça le but.
Il faut que tu fasses tes preuves avant. Et quand je fais un concert, il n'y a pas mon ami Léna qui est là, tu vois. Donc,
Tu peux pas empêcher les gens, en fait, de faire des raccourcis comme ça.
Tu vois, c'est ce que je disais un peu plus tôt. Je te disais, tu peux jamais contrôler ce que les gens pensent de toi et tout. Moi, mon remède à ça, c'est toujours de d'essayer de délivrer de la manière la plus transparente et sincère possible ma vie, tu vois. Même quand je fais un choix radical comme bouger à New York, j'essaie de le raconter. C'est d'ailleurs marrant parce que la manière dont je le raconte, il y a peut-être un truc qui est un peu moins usuel pour les musiciens de base. Je sais qu'il y a des artistes qui me font rire là-dessus.
Il y a un peu plus de l'ordre de l'influence quand même, justement.
Ouais, grave, il y a peut-être un truc. Moi, je prends ça plus comme un truc de « au moins, je parle aux gens en direct ». Je sais que c'est rare la manière dont peut-être je vais parler des fois avec les gens. Et pourtant, moi, je fais jamais de vidéos face cam et tout. Ça doit m'arriver deux fois par an si vraiment je veux parler d'un truc important. Mais je fais jamais ça. C'est toujours très cool. Moi, je mets un écran noir sur Insta et j'écris vraiment ce que je pense en blanc dessus. Je dis, demain, je joue dans tel festival. Il y a 5 ans, je rêvais d'y jouer. Trop bien, venez à telle scène et tout. Mais je suis très direct comment je parle aux gens. Et il y a plein d'artistes qui font des blagues dessus, mais qui sont en mode, c'est cool. En vrai, ça fait un vrai lien. Donc ouais, mais ça peut être paradoxal. Moi j'aime bien cette discussion.
Bah oui, parce que tu vois, il y a des artistes qui font un choix radical de se dire limite je suis pas présent sur les réseaux, je communique très peu, je sors un album tous les 4 ans, le reste du temps on me voit pas beaucoup. Ouais. Et alors c'est plus difficile à vivre économiquement, je pense. Il y en a qui arrivent, mais c'est plus difficile. Donc il y a un moment aussi où par exemple je peux pas croire. Tu me dis, je me trompe peut-être, mais je peux pas croire que à travers ton look, tu dis aussi, c'est pour qu'on m'identifie, c'est pour le bien de ma carrière. Je suis sûr qu'il y a un peu de ça quand même.
Bah, franchement, je pense, il y a un truc. Moi, à la base, la manière dont je me suis habillé différemment, c'était un peu un bouclier et tout. Donc forcément, de base, il y avait un truc un peu... Bah, j'avais une petite rage interne à me dire, moquez-vous de moi tant que vous voulez, ou je suis habillé comme ça, je suis sûr qu'il y aura un endroit où je serais cool. Mais j'avais la folie de penser ça, parce que je me disais, David Bowie, il est trop stylé avec son costard bleu et ses cheveux roux, tu vois, flashy. Et je me disais, bah, c'est le mec le plus cool du monde, qu'est-ce que vous me racontez? J'ai le droit de mettre un truc bleu fuchsia et de faire ce que je veux. Et je pense que ça... Et pour le coup, c'est vraiment parti d'un truc très sincère. Le moment où j'ai commencé à me colorer les cheveux, c'était une envie de changement. Mais je pense que justement, c'était un truc dur de regard avec moi-même. Je sortais de la tournée avec Angèle. Je venais de faire l'Accor Arena, Bercy. Et le lendemain, j'avais les cheveux un peu mi-longs, bruns. Le lendemain, j'ai coupé mes cheveux en mode coupe au bol et je me suis fait les cheveux bleus. Le lendemain de ça, c'était la fin de la tournée avec Angèle. Je pense qu'au fond de moi, maintenant avec le recul, il y avait un truc de... Bon, bah, j'ai fait la plus grosse tournée qu'il y avait en France à ce moment-là. Et franchement, ça n'a pas pris non plus. Enfin, ça a pris beaucoup en live. Il y avait des réactions de folie, genre vraiment, mais c'était la folie dans les zéniths. Mais ça ne se transformait pas en un truc actif dans les streams. Et je crois que c'était un moment un peu dur aussi, peut-être pour moi, où je me remettais beaucoup en question. Et je me disais, j'avais du mal moi-même à me voir. Je me dis, j'ai peut-être rien de spécial ou ce que je fais, ce n'est pas intéressant. Et ce n'était pas dans le désir de je veux être spécial ou quoi, mais c'était plutôt l'inverse. Je me suis dit, j'avais du mal même avec moi physiquement et tout, je me trouvais un peu enfin je me trouvais pas beau et tout, tu vois, c'est tout bête, mais voilà. Et en fait j'ai fait un choix un peu, je me suis fait une coupe au bol et je me suis fait les cheveux bleus, comme ça je dis bah au moins pour le coup
je fais diversion.
Non mais pour le coup il y avait même un truc de genre quitte à ce que je me trouve pas beau gosse, autant que j'ai les cheveux bleus fuchsia quoi.
Au bout, ouais.
Et en fait je me disais, tu sais quoi, il y a des gens ils vont détester, mais par contre les gens qui vont kiffer, ils auront une ouverture d'esprit et tout. Et ça m'a toujours connecté à des gens cool. Donc pour moi, c'était plus une clé. Par contre, on va pas se mentir, des fois, je vais dans des endroits où je suis allé il y a 1 an et demi à New York, je sais pas, dans tel resto. J'y suis allé qu'une fois dans ma vie. Mais quand je reviens, le mec, il se rappelle de moi. Parce que j'ai quand même les cheveux rose fuchsia. Donc il y a un truc quand même pratique. Mais oui, moi, je décide d'être ça sans concession, mais... En fait, on est tellement dans un monde où tout se mélange, tu vois, on pourrait en parler des heures, mais le truc paradoxal des... Comment tu fais, tu vois, il y a beaucoup d'artistes qui disent mon label, ils me disent qu'il faut que je mette des TikTok, des trucs, il faut mettre plusieurs vidéos par jour. Moi, je pense qu'en vrai, il faut et il faut pas, mais je pense que moi, personne m'a jamais dit mets plus de vidéos sur TikTok ou sur Instagram. Je le fais en mettant des trucs qui me font kiffer. Alors par contre, il y a des trucs qui vont faire beaucoup moins de likes et tout. Après, mais ça, personnellement, je m'en fous.
Après, t'as aussi la chance. Il y a un truc de génération. Il y a un truc aussi d'appétence. Il y a des gens qui aiment. Il y a des artistes, par exemple.
Il a les codes.
Ils ont pas. Oui, c'est vrai. C'est clair. C'est clair.
C'est générationnel.
Et même si tu dis c'est sincère, et on croit quand tu dis sincère, mais c'est parce que aussi ça te convient en fait, entre guillemets. Alors, il y a des artistes à qui ça convient pas du tout.
Tu sais quoi? Moi, enfin, pas une théorie, c'est un trop gros mot théorie. Mais j'ai une réflexion là-dessus. Souvent, on fantasme le truc de l'époque et il y a souvent la phrase qui revient « Est-ce que Kurt Cobain, il aurait fait des TikTok ? Est-ce que Tyler, the Creator, il va prendre son téléphone et se mettre à faire des TikTok ?» Non. Mais Tyler, the Creator, par exemple, le moment où il était avec son crew avant que ça fonctionne, il faisait des vidéos en mode jackass pour des petites chaînes, des petits blogs. En fait,
Mais Tyler, c'est... il était sur Twitter comme un ouf.
Bah, hein. En fait, c'était TikTok. Et après, le truc d'avant, moi, je suis toujours un peu.
Cobain serait peut-être été différent.
Ouais, mais je suis
même pas sûr.
Bah, moi, je pense qu'il aurait peut-être. Enfin, on peut jamais savoir. Je pense qu'il aurait peut-être suivi. Il serait servi de cette plateforme pour foutre le bordel partout sur ce qu'il pensait. Moi, je pense toujours que faut faire attention au truc de ils auraient pas fait ça avant. Oui, mais attention, avant, ça revient à dire c'était mieux avant. Attention, avant, il y avait que 5 chaînes à la télé. Il y avait que 10 gars qui passaient à la télé. Il y avait 0 meuf et 10 gars.
Non, et puis en plus,
il y avait genre, tu vois, il y a plein de trucs où il y a quand même une ouverture qui est bien. Je pense que, en fait, je pense pas que c'est agréable pour Kurt Cobain d'aller faire une interview à la télé. Pourtant, il allait le faire et le faire à sa façon.
Non, bah, justement, Kurt Cobain, est-ce qu'il aurait fait des TikTok? Kurt Cobain, il s'est mis un fusil dans la bouche à 27 piges, tu vois. Donc, c'est que déjà, à l'époque, il était pas dans son époque.
Peut-être qu'il aurait fait un live sur TikTok, tu vois.
S'il avait eu l'opportunité, parce qu'en fait, il y a des vidéos qui ressortent là, notamment de Courtney Love. Ouais. Avec une vista sur l'industrie de la musique, alors qu'on est genre en 93, qui est hallucinante. C'est-à-dire que la meuf, en 93, elle t'expliquait déjà la mainmise de Sony Music, notamment des maisons de disques qui se mettent d'accord entre elles, qui rachètent tous les labels, qui prennent tout le marché et qui, du coup, font que ta musique, s'ils décident de la mettre dans un tiroir, plus personne t'entendra. Et c'était quand même ultra clairvoyant, tu vois. Et je pense que justement, avec des moyens de communication qui auraient permis à ces gens-là de s'exprimer autrement que d'attendre une interview pour passer soit à la télé, soit dans un journal, en vrai, je pense que ça leur aurait permis de faire. Après, propager leurs paroles.
Je suis complètement d'accord. Et en fait, il y a plein de modèles, plein de façons effectivement d'utiliser ça.
Il n'y a pas de règle aussi. Chaque cas est particulier.
Mais on a quand même des exemples aujourd'hui. Je pense que tu as récemment des gens qui arrivent à faire le buzz et pourtant ils le font à leur manière. C'est Boards of Canada, par exemple. Je sais pas si vous avez vu avec.
Album tous les 30 ans et voilà, paf.
Ouais, n'empêche que ils arrivent à mêler un succès. Alors, est-ce que c'est un énorme succès commercial? Ils vendent pas comme Beyoncé, évidemment.
Non, mais ils ont une communauté forte.
Très forte. Hyper engagée. Et c'est parce qu'ils ont justement une manière de communiquer alternative, discrète. Il y a eu PNL aussi à une époque. Alors, encore un autre modèle,
oui,
etc.
Ça veut dire, c'est le rejet, c'est dans l'autre sens.
N'empêche qu'il y a aussi des possibilités de faire les choses différemment.
Il n'y a aucune règle. Je pense que moi, j'aime toujours essayer de garder quand même le positif de tout ça. Je pense que là, ça va tellement loin qu'on rentre dans une époque de la communauté plus que des médias, en fait. En gros, avoir à créer une plateforme, c'est te permettre de réunir une communauté. Et un truc que tu peux jamais arrêter, c'est la force d'une communauté. Moi, dans mon cas, on voulait pas passer mes morceaux à la radio. Les programmateurs trouvaient pas ça bien pour la radio. On voulait pas me programmer en festival. À partir du moment où j'ai commencé à faire des salles et que je les remplissais, bah, tout le monde voulait me programmer, tout le monde voulait me passer à la radio. J'ai une discussion très intéressante avec Colm D'Hine de Kid Super. Un jour, il m'a dit, souvent on me demande comment j'ai fait pour avoir une communauté si forte avec sa marque de vêtements qui est aussi... il y a aussi une galerie d'art, tout ça, c'est tous les médiums mélangés. Donc c'est un peu compliqué à comprendre, mais une communauté très forte. Et il dit, la plupart des marques, ils essaient de réunir une communauté pour vendre un produit. Moi, à la base, j'ai imprimé des t-shirts parce que je voulais me faire des potes et je voulais créer cette communauté. Et ben moi, j'ai eu cette impression. J'avais pas de succès dans ma musique enregistrée, donc mon seul but dans la vie, ma finalité à moi, le point final, c'était d'être en concert. Donc pour moi, ça, c'était le goal. C'était le moment où je prenais du plaisir. C'est pour ça que c'était dur pour moi au moment où j'avais pas de concert. Par contre, petit à petit, dès que je faisais un concert et que je réunissais un peu plus de monde, je voyais ce qui se passait. Et c'est à partir du moment où j'ai réuni assez de monde et rempli des salles que là, ça intéressait tout le monde. Donc moi, mon expérience personnelle et très personnelle pour le coup des réseaux, ça a été mon seul lien et ma seule manière d'avoir ce lien avec les gens. Quand j'ai fait complet 6 mois à l'avance à l'Élysée-Montmartre, j'ai mis juste un post dans mon canal Instagram. On n'a pas fait un seul affichage.
Mais t'as un canal Instagram.
Ouais, et j'ai dit dans le canal Instagram, salut tout le monde, demain je vais publier le lien, donc je vous mets le lien avant si vous voulez prendre vos places. Et bah, 80% de la salle remplie, le lendemain j'ai mis le lien et on était complet. Et en fait, ça c'est quand même un exemple de... Si j'avais dû attendre la télé ou des affichages qui coûtent une blinde dans le métro, bah, tout ça, j'aurais pas
encore,
pu.
En fait.
Donc j'ai toujours un truc de... Je pense que les artistes, ils doivent un peu se détacher de ça et juste faire des trucs qui les font kiffer. Tu vois, moi j'ai bossé avec Chroméo, par exemple. On a fait un morceau ensemble. Chroméo, je les adore.
Oui, j'adore aussi.
En ce moment, ils ont un gros buzz sur TikTok avec leur morceau...
Un vieux morceau.
Fancy Footwork. Footwork.
Oui, c'est un vieux morceau en plus.
Ouais. Et ça a fait un buzz sur TikTok, une trend de danse. Avant ça, ils faisaient des vidéos pour leur nouvel album où en studio, ils expliquaient comment ils avaient fait le morceau. Mais normalement, c'est des vidéos de geeks. Franchement, il n'y a que les musiciens qui regardent. Et ben, ça commençait à scorer parce que les gens trouvaient ça intéressant. Et c'était un exemple, tu vois, il y a toujours des contre-exemples. Alors oui, bien sûr, moi, je pense qu'il ne faut pas résumer le truc. Les artistes, il faut qu'ils fassent plus de contenu. Moi, l'autre jour, j'avais mis justement, j'ai mis des extraits de démos, tu vois, sur Instagram la semaine dernière. Je joue des démos en live. Ma tournée tient à ça là, en ce moment. J'arrive, je prends le micro, je dis, j'ai pas de scénographie, j'ai pas de gars aux lumières ou de meufs aux lumières, j'ai rien. J'ai que ma clé USB, moi et vous, et on va danser, je vous fais écouter des nouveaux morceaux. J'essaie au max de recentrer la musique. Et je pense que c'est en réponse aussi à tout ce que j'ai fait avant, à comment ça peut être perçu. Le fait que je fasse ce choix-là radical dans ma vie à New York, ça avait aussi... c'était pas totalement conscientisé. Et avec le recul, je me dis, mais oui, en fait, je viens rechercher cette vérité, cette crédibilité pour
remettre
moi.
La musique un peu plus au centre.
Exactement.
Des choses.
Et là, il n'y a que la musique qui tient. Quand je suis dans un festival et que les gens y viennent, là, il n'y a, y a rien. Il n'y a pas de scéno. C'est que moi, les platines. Et l'autre jour, justement, j'ai mis un... C'est pour ça, je te disais, je commence à saturer de l'espace Instagram et tout. Donc, j'essaie d'y mettre le plus de musique possible. Je partage la musique que j'aime bien, comme si je faisais un DJ set, mais aussi, je vais mettre ce post et je vais dire, bah voilà, c'est des vidéos à l'iPhone, filmées dans un festival, mais c'est des extraits des nouveaux morceaux, si vous voulez savoir comment ça sonne. Et il y a 6 swipes et vous pouvez aller écouter. Et je sais pas, j'ai marqué genre, less content, more music, tu vois. Parce qu'en fait, on appelle ça du contenu, mais c'est pas du contenu, tu balances de la musique. Et alors, c'est sûr que parfois, quand tu mets juste un truc, j'ai fait une session filmée avec Kid Super à Brooklyn, dans un studio d'artistes et tout, ça fait beaucoup moins de vues que si j'allais faire une vidéo, je sais pas, avec un guest ou avoir des concepts ou du divertissement pur et dur. Mais les gens qui le regardent, ils kiffent. Et j'essaie de rendre ça accessible. Et en tout cas, j'ai l'impression, moi, à mon humble mesure, j'essaie de remettre... Par contre, attention, c'est un privilège de pouvoir faire ça parce que maintenant, j'ai une audience. C'est ce que j'ai, dans ma tête, toujours essayé de faire. Mais au bout d'un moment, il a fallu que j'arrête de m'apitoyer sur mon sort et que je trouve des solutions pour que les gens aient les clés.
En fait, je pense que ouais, le truc qu'il faut garder en tête, parce que c'est vrai qu'on reçoit beaucoup d'artistes, et notamment des artistes qui nous disent « Ouais, putain, flemme de ouf, les réseaux, etc. » Mais en vrai, je pense que le truc, c'est ce que tu disais, c'est faites-le quand vous avez envie de le faire.
Exactement.
Ne le
si
faites
tu
pas
forces.
Parce que vous êtes forcé.
Ouais.
Parce que si tu te forces, ça sent.
Bah,
les gens
ça va être pire.
Les couilles,
ouais, grave.
Et, tu vois. Donc en fait, je pense qu'il vaut mieux pour un artiste rien faire pendant 2 semaines sur les réseaux s'il n'a pas envie de le faire, mais après,
grave.
Faire un truc sincère.
Après, je suis complètement d'accord avec toi. Il y a aussi, malheureusement, les plateformes, elles ont des règles où si t'es absent un peu trop longtemps, c'est plus compliqué ensuite. Tu sais, il y a les algorithmes, il faut les faire travailler.
Ouais.
Et en fait, on est tous, même nous, tu vois, en tant que créateur de contenu, entre guillemets, on est obligé
bien
de. On n'est pas que libre, genre, on veut le faire à notre manière.
Mais c'est pas, c'est
si
pas,
on
c'est,
essaie
c'est,
de respecter les règles de la plateforme.
En fait, c'est pas entre guillemets. Je sais que la plateforme, elle fait la technique, ce que j'appelle la technique du kebab, mais qui est aussi la technique du dealer. Parce que quand tu vas dans un kebab la première fois, avec ton sandwich, il va te filer la boisson gratos, tu vois. Et toi, tu vas faire oh cool. Et donc, tu vas revenir. Et puis au bout d'un moment, il va t'enlever la boisson. Tu vas dire là, frérot, maintenant, faut payer.
Ouais.
Comme la dose du dealer. Et les plateformes font ça. C'est-à-dire que quand tu vas investir une plateforme, d'un seul coup, tu vas avoir une surexposition. L'algorithme, il va te mettre en avant, tu vois. Il va t'amener en fait à toute une communauté que tu reachais pas avant, tu vois, où tu pensais même pas qu'elle était là.
Nous, on a un peu vécu ça sur TikTok.
Mais
on
moi,
a
c'est
fait
ce que
on a fait des gros chiffres sur TikTok.
Tous les jours sur
Insta.
C'est ce que j'ai toujours sur Instagram. Donc à un moment donné, t'as un truc qui pète. Tu dis ah cool. Ça y est, je suis installé sur mon petit strapontin, c'est chouette, tu vois. Et tu balances un deuxième truc, pouah,
mais
il s'écroule, tu vois. Et en
c'est
fait,
aussi, c'est aussi, je pense, la dure réalité de la différence entre un momentum sur les réseaux et la vraie communauté que ça génère derrière. C'est comme un concert, je vais jouer dans un festival, il y a 50 000 personnes, je vais me dire, ah bah c'est bon, j'ai joué devant 50 000 personnes. Si je prends là, c'est comme si un poste avait buzzé, tu vois. Un festival de 50 000 personnes, c'est un poste qui est devenu viral. Si je prends la confiance et que j'ouvre une salle de 50 000 personnes la semaine d'après, moi tout seul, hors festival, c'est que j'ai plus du tout conscience de qui je suis, d'où je suis. Et en fait, là, faut me faire redescendre direct parce que je vais me planter. Je pense que les réseaux, c'est comme ça. C'est un peu comme dans la vraie vie. Il y a juste des moments où, genre, oui, il y a une viralité pour quelque chose, mais c'est du coup un propos qui sort du contexte. Donc, c'est un propos qui souvent fait réagir. Parce que souvent, c'est du clickbait un peu, tu vois. Il y a un petit truc, il y a la phrase choc, voilà. Et ensuite, ce qui reste sur la durée, c'est les vrais gens. Je pense que l'algorithme, il y a une seule manière de le défier, c'est les gens qui juste tapent ton nom pour aller voir ce que tu fais. Et ça, c'est depuis la nuit des temps, ce sera ça. C'est comme si quelqu'un allait regarder ton émission à la télé alors qu'il y a 1000 propositions. Quelqu'un qui allait acheter ton album à la Fnac alors qu'il aurait pu acheter 50 autres albums. Au bout d'un moment, j'essaie de ne pas me perdre dans le truc de l'algorithme.
Essayer de hacker systématiquement le truc.
Moi, j'en peux plus des vidéos qui sont en mode « Ouais, je vous montre comment hacker l'algorithme Instagram pour faire ça. » Non, en vrai, si tu fais un truc et que les gens ils ont cliqué sur ton nom, alors oui, bien sûr, il y a des sujets plus fragiles que d'autres où il y a des notions de shadowban et tout. Ça, c'est plus des trucs politiques et tout. Ça, c'est totalement vrai. Ça, bien sûr. Mais quand on fait juste de la musique,
ou
un podcast, tu fais ton truc, voilà. Il y a des moments où il y aura un moment viral, mais ce qui compte, c'est les gens qui vont venir écouter l'émission en entier. C'est pas parce que t'as 15 secondes qui sont virales sur TikTok que ça va remplir une salle sur 1h30 de concert, tu vois.
L'illustration, tu vois, on en parlait avant l'émission, on a un reel qui a surperformé sur une émission qui a duré 2 heures, comme toutes les émissions qu'on fait, où il n'y avait pas de truc de ouf, il n'y avait pas de happening, tu vois. C'est juste, il y a des gens, des fois, c'est le bon moment avec le bon sujet, tu vois.
Ouais, des fois, il n'y a même pas d'explication, c'est un mélange de plein de choses.
En fait, c'est organique, tu vois.
Ça a résonné chez les gens. C'est toujours quelque chose qui résonne chez les gens, qui leur fait ressentir une émotion et ils interagissent.
Après, c'est vrai. Il y a aussi, de manière un peu plus cynique, les trucs très polémiques, qui t'assurent, etc. C'est la perversité du truc, d'ailleurs.
C'est la perversité du truc. Et c'est pour ça que l'intérêt, c'est de pas tomber que là-dedans.
Bien sûr.
Tu vois, moi, là, j'ai fait un reel, je fais des reels sur des trucs culturels, du hip-hop, etc., qui marchent pas de ouf. Et là, j'insulte Yann Barthès. J'ai surperformé. Donc, la tentation de te dire, je vais insulter des mecs tous les jours, tu vois, c'est ça le truc. Réussir, quand t'as compris que c'était cette recette qui marche là, réussir à dire, mais je vais pas le faire tout le temps.
Ouais.
Je pense que c'est là aussi que t'es.
Pour moi, tu joues avec des codes dans le seul but de donner les clés aux gens. En fait, ce que tu fais, ce que tu défends, c'est comme si c'était genre une maison. Et t'as envie que les gens ils te rendent visite et s'ils ont pas la clé pour entrer, ils restent à l'extérieur, ils comprennent pas ce que tu fais, ou alors ils sont pas touchés. Je pense que quand on parlait du mélange justement d'images, d'exposition, de YouTube, de la musique, je pense que une des choses qui a fait comprendre aux gens ma musique, ça a été paradoxalement de me voir dans ces vidéos, parfois avec Léna, il y en a pas non plus genre 1000, mais en tout cas il y en a eu quelques-unes qui ont fait des gros scores de vues. C'était tellement la vraie vie que les gens m'ont juste vu... Mais ils m'ont vu dans des galères et tout, de vraie vie. C'était un moment même, j'étais en pleine rupture, je bougeais d'appart, on a voulu aller à Londres, on s'est fait scammer par un mec d'Airbnb et tout. Enfin, tu vois, c'est des petites galères du quotidien. La manière dont tu réagis, la manière dont t'es juste genre normal, c'était juste la vraie vie. La vraie vie cool. Et genre, les gens, je pense que comprendre juste mon perso qui, de l'extérieur, peut paraître genre totalement barré, foufou, ou genre qui prend de la place et tout... Et voir que je suis juste tranquille et qu'en fait, en vrai, juste un mec qui fait de la musique et qui fait son son passionné de musique, ça a aidé des gens à comprendre le message de l'album. Donc je pense qu'il n'y a pas de grand côté du mal, de grand côté du bien. Il n'y a que des moyens de distiller des petites clés. Et tu ne sauras jamais d'où les gens ils viennent quand ils viennent écouter ta musique. C'est peut-être leur tante qui leur a parlé de toi, leur petit cousin.
Tu ne leur demandes pas en concert, ça ?
Vous m'avez connu comment, les gars ?
Je faisais ça des fois en festival. Je disais qui m'a déjà vu en concert ici. Et justement, mon ancien tour manager, il se disait qu'à chaque fois, je faisais des stats. Il dit, toi, t'es un psychopathe, même en concert, tu fais des stats, t'essaies de comprendre d'où les gens viennent. Et je dis, mais c'est trop intéressant. J'étais en mode, qui vient pour la première fois ? C'est comme un truc de stand-up. Hein. C'est votre première fois par applaudissement. Mais ça m'intéressait trop de savoir d'où. Quand les gens ils me croisent dans la rue, je leur demande toujours où est-ce qu'ils m'ont connu, tu vois.
Alors, tu vois, sur Plus Fort, sur YouTube, donc il y a la section commentaires, on apprend par exemple, et je trouve ça trop bien d'ailleurs, il y a de quoi en être fier, qu'il y a beaucoup d'enfants et d'adolescents qui connaissent ce morceau parce qu'ils le reprennent à l'école, parce qu'ils le reprennent avec la chorale,
ça,
etc.
Ça, c'est fou parce que tu vois, c'est un morceau tel quel. Je sais qu'au moment où genre, on l'a proposé à des radios et tout, c'était vraiment trop spé, quoi. Ça n'avait pas de code de comment ça sonnait, la manière dont ça sonnait, c'était pas adapté. Et de voir que c'est un morceau qui est repris, il est beaucoup repris dans des chorales. Je te jure, j'ai au moins genre une trentaine de chorales qui m'ont envoyé des vidéos. Mais c'est fou, c'est genre, c'est en train de devenir un hit des chorales.
C'est cool.
Mais dans beaucoup d'écoles et tout. Et
je mettrai un sticker sur l'album premier sur les chorales de France.
Non, mais c'est fou. S'il y a bien un truc auquel je m'attendais pas, t'imagines moi à qui on a répété, t'es trop chelou pour être grand public,
ouais,
de faire un hit des chorales, mec. Que l'école où genre on se moquait de moi, comment je m'habillais. Et en fait, maintenant, les petits arrivent et ils me trouvent trop stylé et ils chantent mon truc. C'est dingue, tu vois.
Revanche,
et
revanche.
Je suis content que ce soit sur un morceau quand même qui a un beau message comme ça. J'avais fait un clip où, où je m'amusais à recréer ma chambre d'ado et à être un peu en mode rêveur, mais au final me déguiser, que ce soit genre hyper genre limite parodique, tu vois, d'être en mode c'est ridicule de se déguiser comme ça, de sauter sur son lit. J'avais envie de recréer ce truc là et ben en fait il y a notamment une vidéo, je sais plus le nom de la chorale, mais où les enfants parlent de comment ils ressentent le morceau. C'est trop mignon, ça m'a beaucoup touché.
Il y a un super format fait par la Philharmonie des enfants. Je sais pas si vous connaissez ce truc.
Ouais.
La Philharmonie de Paris a un truc vraiment dédié aux enfants.
Je suis allé jouer avec les élèves de la Philharmonie.
Et ils font venir, ils ont un format vidéo, ils font venir un artiste et c'est les enfants reprennent le morceau de l'artiste devant ses yeux.
Et bah, c'est exactement ça que j'ai fait.
C'est trop mignon.
Et, j'étais trop touché. Ouais. Je suis allé le faire et je me disais, bah, ça va être trop mignon, c'est trop cool. J'étais honoré, tu vois. Parce que moi, c'est ces enfants qui ont choisi de. Je suis en mode, c'est le truc le plus beau du monde. La nouvelle génération, c'est le monde de demain, littéralement. Et j'ai fait une exposition avec Jean-Charles de Castelbajac qui était destiné aux enfants, mais qui était aussi pour les grands enfants, clairement. Mmh. On a créé un synthé, genre un synthé des émotions qui s'appelle Synthémo, où tu peux jouer avec des filtres comme un DJ, t'appuies sur les émotions, ça envoie des gros sons électro et tout. Et en fait, il y a plein d'enfants, plein de parents qui m'ont écrit, m'ont dit ma fille ou mon fils veut faire de la musique depuis qu'il a joué avec ça. Mmh. Et ça s'appelait Le Peuple de Demain. Et pour moi, il n'y a rien de plus vrai, c'est vraiment la nouvelle génération. Donc j'étais trop ému, mais je me suis laissé même déborder par une émotion que je n'ai pas vu venir, parce que c'est y a rien de plus beau.
Mais ça va, ils l'ont pas cartonné le morceau, ils ont fait ça.
Non, ça va. Et alors, tu sais quoi? En vrai, il y a eu une première version qu'on n'a pas diffusée. Et en fait, là, il y avait, je vais pas dire qui dans le groupe.
Il y en a un qui s'est planté.
Il y a un enfant ou une enfant qui a stressé de jouer devant moi qui a pleuré, tu vois.
Oh.
Et j'ai dit, on peut couper. Et j'ai parlé avec les enfants et je les ai fait rire et tout. Et j'aurais dit, on s'est tous fait un câlin. J'ai dit, vous savez quoi, c'est trop cool. Moi, votre âge, c'était nul ce que je faisais. Et genre là, vous faites un truc trop cool. Vous êtes à la télé et tout, vous êtes trop percé. Et du coup, on a un peu redétendu l'ambiance et c'était trop mignon. Et la deuxième fois était magnifique, tu vois.
T'as parlé à l'instant d'un synthé de matos.
Ouais.
Et on se fait un kiff pour clore l'émission.
Ouais, c'est une question que j'avais en tête.
Dernier point. Ouais,
comment tu fais?
T'es un peu geekos sur le matos et tout? Comment
tu bosses? Déjà, le mec, il a bossé sur Audacity, donc déjà,
je pars de loin. Je suis geekos, oui, pour comment faire sonner les choses, mais je suis pas un collectionneur. Alors, j'utilise beaucoup de synthés analogiques, mais je vais toujours dans les studios où il y a les vieux synthés, parce que moi, j'ai une passion de ça, juste pour déclencher les accidents. Mmh. Moi, la prod, j'aime quand genre, le synthé, il a pas fait ce qu'il fallait, et en fait, c'est vraiment...
Concrètement, je crois que tu maquettes beaucoup à la maison sur Logic, c'est
grave.
Quasiment l'essentiel. Ensuite, quand tu veux finaliser vraiment les morceaux, là tu vas en studio avec du beau matériel.
Exactement. Alors pas toujours pour le truc de beau matériel, c'est vraiment des fois je vais juste remplacer 2-3 pistes. Enfin, cet album que j'ai fait, le premier album, il était full, c'est que des synthés analogiques, il y a pas de plugin quoi. On a print sur la table de mixage de Philips Dar, les reverbs, les échos, c'est vraiment un album full organique. Là, ce que je fais maintenant, c'est que quand je compose, je me mets un peu un truc où j'ai pas de plugin. J'en ai genre 8. Et la plupart, c'est des plugins de base de Logic, tu vois.
Okay.
Parce que je trouve qu'après, je perds trop de temps avec les synthés. Donc même mes synthés, j'en ai 3 différents.
T'as quoi?
Genre, mais c'est vraiment dans les plugs, c'est dans les
les
sons de Logic. Il y a le son, genre le son qui est l'onde de synthé de base, où si t'appuies, ça fait Satisfaction de Benny Medassi, tu vois. Et bah je joue juste avec les filtres et tout, je pars toujours de ça. D'autres, si j'ai besoin de trucs un peu plus... Avec ça, tu peux faire des brasses et tout. D'autres qui sont un peu plus atmosphériques, tu vois. Et ensuite, je bosse que avec genre... J'ai juste un Fab Filter Equalizer, si tu connais un peu les plugins, une reverb Valhalla, un CLA Vocals, un compresseur. J'ai juste le plug que j'aime bien pour un délai, une reverb, un compresseur. Et par contre, ce que je fais, c'est que j'exporte tout en audio vraiment, je me donne plus la possibilité de retoucher. Okay. Et là, je casse les boons que je fais. Je les roadshop avec une MPC, je fous le bordel là-dedans, tu vois. Je déclenche, je dynamite la prod que je suis en train de faire, mais tout avec de l'audio. Donc pour moi, ça enlève le truc, c'est plus du tout numérique.
C'est de figer.
Ouais, c'est plus du tout numérique, c'est pour ça que je m'en fiche un peu des plugins. Une fois que l'audio, il est là, je traite sur l'audio, je redécoupe. Donc je suis un peu... je suis très geek là-dessus, sur comment faire sonner bien les choses. Je suis passionné par les dynamiques de son, sur comment ça sonne dans des systèmes son, dans des clubs et tout. Mais par contre, je suis vraiment pas un collectionneur de synthé, quoi. Mais pourtant, j'adore ça. Hein. J'ai un Juno chez moi, c'est le kiff, j'adore le chorus dessus, mais je suis pas du tout en collection de synthé, quoi.
Mais c'est-à-dire que ton workflow, c'est tu composes.
Ouais.
Et après, tu t'auto-chop,
ouais,
en fait.
Ouais, je détruis tout et je m'auto-chop. C'est pour ça que je dis qu'il y a un truc assez French House, French Touch dans les trucs que je prépare. Mmh. C'est que c'est un peu une manière qui était de faire, qui était de base par défaut, de dire j'aime ce vinyle. Le seul moyen de l'avoir, c'est de faire une boucle. Mmh. Là, c'est moi qui sciemment fais un morceau et je le recasse et je le remixe avec un autre morceau que j'ai fait. Et je mixe tout ça et ça donne des moments de grâce et d'émotion, des fois, dans... Moi, je peux pleurer sur une belle loop de Fresh de Daft Punk, tu vois. Le morceau Fresh de Daft Punk, c'est la même loop pendant 3 minutes 30, mais je peux pleurer dessus, c'est magnifique. Mmh. Et en fait, ce truc-là de mélange, de carton total, ça peut pas exister si tu as commencé à le composer. Tu vois, c'est un truc, tu l'as exporté, tu l'as recassé. Je trouve que dans la prod, comme dans la vie, il y a un truc très vrai, c'est qu'il n'y a pas de choix parfait. Il n'y a aucun choix parfait. Par contre, il y a des décisions. Et une fois que tu prends une décision, si tu ne reviens pas dessus, tu es obligé que cette décision, ça devienne la meilleure décision du monde. Mmh. Ça, je l'applique à la prod et à la vie. Donc, quand j'exporte un morceau à moi pour aller tout casser, je me dis, j'ai plus le choix, je fais avec ça. Je m'enlève le choix. Quand je pars vivre à New York, c'est peut-être pas le choix parfait. Par contre, c'est une décision que j'ai prise et je ne peux plus revenir dessus, j'ai plus d'appart. Je suis vraiment parti avec 3 valises et je suis là-bas. Et ben, je suis obligé de faire de cette décision-là la meilleure du monde. Je suis obligé de la rendre excitante, cool, de trouver des solutions concrètes pour pas juste me ruiner et être en banqueroute là-bas. Et en gros, dans la prod, j'ai la même philosophie. Mais je suis un peu fou là-dessus, en mode jusqu'au boutiste, quoi.
Oui, parce que ça veut dire que, donc, une fois que t'as bouncé ta compo et que t'as commencé à la découper...
Après, je fais plein de bounces différents. Je fais genre avec le clavier, avec la basse. Oui, alors... Je me dis, on n'est plus à l'époque des vinyles, où on peut sampler que des vinyles. Donc, je me dis, j'ai toujours un peu la vision de me dire, tiens, la voix avec telle synthé, ça va faire un... qui va arriver à ce moment-là. Donc j'ai un peu la vision, je me fais plein d'options différentes. Et après,
tu mixes ces différents bounces.
Ouais, je pense que je suis plus efficace pour trouver des idées improbables en ayant ce cadre-là.
Mmh. Et pour les versions finales, en général, tu fais appel à des instrumentistes en studio, tu joues tout, tu fais...
Sur le premier album, j'ai joué tous les claviers, les pianos, vu que je suis pianiste de base.
Tu t'attends un tout petit peu de guitare, de basse ou pas trop ?
Ouais, guitare, je fais pour les démos. Mais alors, si c'est un truc après à jouer vraiment énervé, j'avais fait sur le premier album, c'est Ulysse Cotin des Papouss qui a fait toutes les guitares. Projet que j'adore, musicien que j'adore. Ulysse, un des meilleurs guitaristes que je connaisse. C'était Bastien qui jouait avec le groupe Catastrophe à l'époque, qui avait fait toutes les batteries.
Super groupe, Catastrophe.
Bastien qui est genre vraiment... un grand batteur, c'est vraiment incroyable. Et après, il y avait des cordes, des cuivres. J'avais fait des arrangements. Je m'étais entouré de Victor Lehmann pour faire les arrangements de cordes et de cuivres parce que j'adore comment il arrange tout ça.
Qui a fait aussi, bien sûr, la cérémonie des JO, etc., Victor Lehmann.
Et sinon, là, non, je fais vraiment tout solo pour le coup.
New York, là, reviens à un truc très électronique, en fait.
Grave, mais qui a beaucoup de chaleur et tout, et un truc très organique. Et je bosse avec plein de gens à New York, et ça, c'est nouveau aussi. C'est genre, j'ai toujours été un peu solo. Là, je fais plein de sessions avec plein de gens.
C'est-à-dire, dès la base des maquettes, c'est-à-dire, c'est pas une fois que t'as des maquettes fixes. Grave.
Des fois, je fais une session en
amont, quoi.
J'ai fait une session avec une bassiste incroyable qui s'appelle Alicia, qui est une grande productrice aussi. Qui a été nommée plusieurs fois au Grammy en productrice de l'année.
Celle qui est proche d'Anderson .Paak, là, ou je comprends ?
Ouais, exactement. Elle vient de sortir un morceau avec Anderson .Paak. On fait des sessions, tu vois, ensemble en ce moment. Et des fois, il y a plein de choses. Je me dis, ah, cette boucle qu'on a faite, je vais l'utiliser là, tu vois. Là, je fais plus un truc de... Je me laisse cueillir par la vie, comme je disais. Et je suis dans une liberté totale. à la fois je suis obligé d'être dans, je dis ça mais je suis quelqu'un de très terre à terre, je suis obligé d'être dans des trucs très je pense que j'imagine qu'on peut le ressentir dans toutes les discussions qu'on a eues. Je dis toujours que je me jette à l'inconnu, mais j'ai quand même un truc. Je viens.
On a bien compris.
Je viens d'un endroit de galère un peu, donc je suis. J'ai pas non plus envie de. Voilà, je suis.
Ouais, c'est. Tu vas.
Je suis très terre à terre. Je me dis, si je fais ça, c'est que je sais que je vais jouer dans tel club et qu'en fait, ça peut marcher dans ce club-là, le bouche à oreille.
Il y a une prise de risque, mais elle est calculée quand même.
Ouais, ouais, grave. Non, sinon, ce serait que de la folie. Ouais. Non, mais vraiment, tu vois. Et des fois, ça fonctionne. Tu sais, moi, j'ai tout arrêté pour faire que du son et après mon diplôme de conservatoire. Et j'avais dit à mes parents, dans un an, si je paie mon loyer avec la musique, moi c'était 400 balles, si je paie mon loyer avec la musique, je continue dans un an. Sinon, je vais reprendre des études, quoi. Mmh. Et je faisais des vidéos pour des bacs. J'ai des potes, ils faisaient de la vidéo, ils vendaient pour que dalle des after shows ou des backstage de Fashion Week pour des marques. Et je leur disais, mais les gars, faut que vous vendiez des musiques avec, comme ça ils auront une musique sur mesure. Et j'avais 18 piges et je faisais des trucs pour des backstage de Valentino et tout. Mais les gars savaient pas du tout qui j'étais, mais je me faisais des petits cachets comme ça petit à petit et je payais mon loyer avec ça. Et après j'étais intermittent et voilà. Mais pour le coup, ouais, j'ai toujours un truc pragmatique quand même. Et quand il y a des jeunes artistes qui viennent me parler, qui me disent, ou des jeunes très jeunes en festival, ils me disent, moi, après mon bac, je vais tout arrêter, faire comme t'as fait, que de la musique, parce que j'aurais pas le choix, pas de plan B. Je suis en mode... ouais. Moi, si j'avais pas payé mon loyer avec ça assez vite, je me serais dégoûté de la musique.
Et ce qu'il faut qu'on précise, c'est que très tôt, avant même que vraiment ça marche pour toi, t'as rencontré un manager.
Grave, je me suis structuré, grave.
Qu'on salue, qui écoute l'émission.
C'est grâce à lui que j'ai pu devenir intermittent. Lui, il a eu la vision de tout ça, de se dire, on signe avec un label, on a une avance avec laquelle tu vas vivre, ensuite tu vas être intermittent. Lui, il a toujours fait gaffe à ça.
Et donc, depuis le début, c'est le même. Et donc, j'imagine qu'il participe à te structurer énormément. Vous avez trouvé très vite aussi, enfin très vite, je sais pas, mais en tout cas, vous avez trouvé un booker compétent, puisque c'est Simon Audet qu'on a reçu.
Ouais. Simon Audet et Colia Rustin. C'est Simon qui nous a amené chez Double Spectacle. Je travaille là désormais avec Colia Rustin. Et il y a aussi Simon, bien sûr.
Toujours chez Double Spectacle.
Chez Double Spectacle.
Sûr, Simon,
meilleur tourneur de France. Donc, attends, ils pètent les records tous les ans. Hein.
En vrai, c'est vrai que ça bosse
tous les ans, c'est eux les plus programmés. Hein.
Donc oui, tout ça pour dire que toi, tu sais certainement où tu vas, mais tu t'es surtout aussi entouré de gens qui savent où aller.
Et attends aussi, il a fallu m'expliquer. Hein. Je peux te dire qu'au début, je faisais des rendez-vous en maison 10, je comprenais rien, moi. Et Loïc, mon manager, il a vraiment pris le temps de m'expliquer. Hein.
Julien,
yes.
C'était hyper intéressant.
J'espère que j'ai pas trop parlé.
Non, t'inquiète.
Par rapport aux autres invités, je suis bavard.
Mais c'est le but, hein. c'est ton émission.
En vrai, on préfère quelqu'un de bavard que quelqu'un qu'il faut aller chercher. Ouais.
Putain, non, mais vous avez des très bons sujets qu'on n'aborde pas partout.
C'est vrai, moi, écoute.
Je te jure, non, mais de dire je pense que c'est la première fois, tu vois, que je parle de ce truc paradoxal, parfois entre l'image, les trucs de la mode, tu vois, que la mode qui est un art, mais qui se mélange au truc des marques, le truc de tout ça, c'est pas souvent qu'on en parle. Et je trouve qu'on a abordé plein de sujets quand même qui peuvent retentir chez de jeunes artistes, tu vois. C'est des problématiques très actuelles. On pourrait en parler des heures, mais...
Ouais, ça, on pourrait faire des émissions sur ces trucs-là.
Ouais, même Jean-Charles de Castelbajac, ouais. C'est intéressant parce que... Moi, c'est un peu le truc de la mode, le luxe, on se relance dans un truc là, mais...
Ce que
t'as fait venir, on parlait de culture underground. Ouais. Bon, là, on n'est pas dans la culture underground, tu vois.
Figure-toi que Jean-Charles de Castelbajac, il a quand même habillé le pape en tenue arc-en-ciel. Et il a fait ça dans les années 90, ça lui a valu un tollé, bien sûr, le monde s'est retourné contre lui. Il avait été choisi pour habiller les jeunes pour les journées. Ouais, exactement. Donc, il y a des millions de jeunes qui allaient porter le merch et tout. Voilà. Et il a décidé de faire l'arc-en-ciel. Et il m'a raconté qu'il a dit au cardinal, j'ai qu'une seule idée, comme à chaque fois, et ce sera l'arc-en-ciel. C'est le seul lien entre les hommes et Dieu. Okay. Et il a dit, par contre, mon père, vous devez savoir que c'est aussi le symbole LGBT. Et en fait, le cardinal apparemment a dit, l'arc-en-ciel n'a pas de copyright. C'est comme ça que c'est passé. Et Et il a un truc quand même punk là-dessus.
En fait, il a pu avoir quelques éléments subversifs.
Ouais, bien sûr. Ça a été un punk, Jean-Charles Le Gars Selvage.
La réalité, c'est qu'il est issu, je crois, d'une famille extrêmement bien lotie.
Et il est parti vivre à New York. Il a vécu avec McLaren, Malcolm McLaren. Il a vécu avec Kissaring, beaucoup. Dans ses toilettes, un dessin de Kissaring.
Mais ce lien, je suis sûr qu'il a été exploré par plein de gens. Entre justement la mode, le luxe, les gens riches. Parce qu'il y a des gens riches aussi. Et des cultures parfois underground.
Le capitalisme récupère tout.
Le rap, ça existait aussi.
C'est que ça.
C'est comment ça s'appelle Paco Rabanne, par exemple, au début du rap en France. Paco Rabanne, tu vois, il rassemblait.
Le rap, c'est là où c'était le plus flagrant en France dans les dernières années.
Mais tu vois, ça peut être questionné quand même.
Ah, bah bien sûr, bien sûr.
Parce que tu vois, quand on parle des pionniers, les pionniers de la house, et qu'ensuite tu mets Jean-Charles de Castelbajac, tu vois, tout. Bon, je sais pas.
Ah, mais grave, mais de toute façon, tous les courants. Je me demande, moi, souvent, qu'est-ce que ça va être le courant dont notre époque se rappellera. Parce que on dit toujours qu'il y a un cercle de tous les 20 ans, il y a des styles qui reviennent. Mais quand même, nous, depuis 40 ans, il y a eu des styles qui sont nés. Il y a eu les 70s, 80s, 90s, tu vois. C'était des naissances. Donc souvent, quand on dit la musique, elle se répète tous les 20 ans, je suis un peu en mode, bah attends, c'est la première fois qu'elle se répète au bout de 20 ans, on ne sait pas. Je me demande ce qu'on gardera de notre époque, parfois. Mais je pense qu'à chaque fois, quand un style il revient pas vraiment. Il revient avec les codes d'aujourd'hui.
Des fois, il est jamais vraiment parti aussi.
Tu vois, est-ce que le truc de la house, de contestation et tout, de base, de liberté totale, de fête, des minorités et tout, est-ce que ce serait une bonne chose si c'était toujours que ça? Et que du coup, ça restait que dans des endroits, un signe de contestation. Est-ce qu'au final, il n'y a pas une bonne chose quand ça touche un peu plus de monde, et à la fois, le problème, c'est que le message, d'un coup, de base, c'est plus du tout le même. Donc, en fait, est-ce que c'est encore la même house? Non, c'est la house qui revient.
En fait, ce qu'il faudrait, c'est que ce truc-là, qui naît comme un mouvement contestataire, devienne grand public et un peu pop, mais ensuite soit récupéré par les gens qui l'ont créé au départ pour recontester
derrière.
Et je
pense aussi que les artistes payent hommage aux pionniers. C'est ça qui est important. Tu vois, moi, quand je fais... Quand je commence à faire des flips de French Touch et tout, c'est un son qui était déjà présent même sur le premier album, ou même il y avait ces notions-là de French Touch dans tout ce que j'ai commencé à faire. J'avais fait un morceau que ça s'appelait La Mer à Boire, qui était un peu un truc qui partait avec une 303 d'acide. C'était toujours un mélange incompréhensible. Je comprends que les gens comprenaient pas. Mais il y avait ces racines-là. Et un jour, je sais pas, j'ai fait un concert, joué avant Alan Brax et DJ Falcon, et pour moi, je me disais, mais c'est les deux pontes de... Et je me suis dit, tiens, ils vont voir mon live, j'aurais aimé qu'ils me voient en DJ set pour comprendre à quel point je respecte cette musique. Et là, est-ce qu'ils vont comprendre en live? Eh ben, ils ont adoré, et plus tard, on s'est croisés en DJ set, et avec Alan Brax, on s'envoie du son tout le temps et tout, j'envoie des petits bouts de démo, il m'envoie même des trucs que lui fait... Et moi, je me dis, je suis là parce qu'il y a eu ces gens-là avant. Et du coup, c'était trop intéressant de pouvoir parler, de pouvoir avoir accès déjà. C'est rare, tu vois.
Et Daz l'a dit, en fait, c'est effectivement comment tu rends hommage à ces gens. D'ailleurs, il peut y avoir un sampling vertueux. C'est-à-dire que justement, je paye des droits pour utiliser un sample d'un truc à l'ancienne que j'ai envie de remettre sur. Non seulement il va y avoir un.
Dans ce cas-là, c'était déjà un sample de base. Donc
je veux remettre en lumière et ça peut profiter à l'artiste.
Exactement. Il y a l'histoire, leur rendre hommage, il y a l'argent, il y a ces éléments, effectivement, pour dire, bon, c'est pas grave de récupérer. C'est un truc classique. Tu vois, le mainstream récupère les cultures underground, les met à disposition de tout le monde.
Grave.
Et si on se fait en sorte de pas oublier quand même les précurseurs, de pas trop dévaluer le truc, tu vois, je sais pas comment dire.
Bien sûr, je pense qu'il y a toujours, dans chaque style, il y a toujours une partie de la scène qui reste une vraie niche avec les kiffeurs qui savent d'où ça vient. Et c'est pareil dans tous les styles. En fait, c'est toujours utilisé. De toute manière, dans l'histoire de la musique, de la pop culture, c'est toujours l'underground qui vraiment. Devient sexy et cool pour le mainstream, et ça devient après le capitaliste qui s'en empare. Mais à la base, c'est underground parce que personne n'en veut. Et pourquoi personne n'en veut? Parce que souvent, il y a des contestations avec. Donc ouais, c'est une espèce de boucle infinie. Moi, je pense que souvent, vu que je me pose beaucoup ce genre de questions, et que comme on a pu le voir, je pense, au fur et à mesure des conversations, j'ai beaucoup de choses en tête en même temps. Ça me fatigue beaucoup. Je suis fatigué à la fin de la journée. Et la seule manière que j'ai de dealer avec tout ça, c'est cette petite candeur et naïveté que j'essaie de garder en me disant, je fais les choses bien, je suis toujours, je pense que j'ai passé assez de temps dans la musique pour être enseigné sur pas mal de choses, donc je pense pas que j'ai faire de grosses gaffes ou manquer de respect à qui que ce soit. Dans
évite les blackface par exemple.
Ouais, voilà, par exemple. Tu sais, c'est comme ça pour les jeunes qui nous regardent.
Avec beaucoup de candeur, certains l'ont fait à une époque. Hein, c'est
alors, bon. À une époque. Ouais,
je suis pas, ouais. pas sûr que la candeur était le premier élément. Mais...
Bah, c'était problématique.
Non mais grave, mais tu vois, je navigue dans tout ça en me disant, voilà, j'ai un amour total et profond. Moi, je suis un amoureux de la musique, mais je suis à un point, quand je parle de folie, je pense que je suis fou aussi là-dessus. Ça me passionne. Je pourrais rester 6 heures avec vous à vous faire écouter des trucs, tu vois.
Et bah, tu sais quoi? tu vas avoir l'occasion de nous faire écouter un truc, puisque tradition dans cette émission, on termine avec une recommandation chacun. On s'écoute un extrait. On peut commencer avec Daz, si tu veux, pour te laisser le temps
plaisir,
de réfléchir.
Avec plaisir, avec plaisir.
Trouve un morceau, soit un de tes classiques, soit un truc que t'as kiffé récemment.
Ouais, grave.
Eh bien, tout à fait. Marocco. Ouais, j'ai une idée. C'est un vinyle que j'ai récupéré chez mes darons, comme d'habitude. Okay. Je suis toujours dans cette era de récupérer tous les vinyles des Rondas et de les faire tourner chez moi. Okay. Et c'est un artiste qui s'appelle King Curtis.
Ok.
Qui est un Zikos, un jazzman à la base, qui avait fini par devenir trompettiste d'Aretha, enfin pas trompettiste, directeur musical d'Aretha Franklin, et qui s'est fait planter en bas de chez lui à New York à 37 ans, par un dealer.
Oh, putain.
Et le morceau s'appelle Central Park, et je te jure, j'étais en stream, et je faisais tourner le vinyle, je faisais autre chose, et quand ce morceau-là il est sorti, j'ai arrêté le stream, je fais attendez 30 secondes, il y a un truc qui se passe, il faut que j'écoute ça. Ça défonce. En fait, j'ai pas d'autres termes. Ça défonce.
Et bah, King Curtis, Central Park.
Ouais. En 4, ouf. C'est ouf. Le morceau, il est ouf. Et tu vois, les.
C'est très cinématographique.
Tu connais la vibe que je recherche dans le drumless et machin. Mmh. Voilà. Et ça, ça a jamais été samplé, ça. J'ai cherché.
Ah ouais?
Personne l'a jamais samplé. J'étais en mode, waouh, incroyable. Incroyable. King Curtis.
Faut que je t'envoie un morceau que tu vas kiffer, je pense.
Ah ben, bah,
qui est un peu dans
plaisir.
Cette vibe.
Ouais, grave.
Avec plaisir.
Parle devant ton micro, Julien.
Ouais, pardon. Trop bien, mec. Merci pour la découverte, ça tue.
Ah, merci.
Je vais le prendre dans mes likes Spotify.
Tu veux enchaîner ou j'enchaîne ou
tu sais quoi, tant que j'y pense, vas-y. C'est juste, on s'écoute juste l'extrait dessus. Là, c'est pas celui que j'ai en tête, mais là, ce que tu viens de me faire écouter, je pense que tu peux kiffer. Donc, par pur kiff, c'est un gars qui s'appelle T-Mac.
T-Mac, ok.
T-E-E-M-A-C.
Ok. Ouais. Tu me dis, c'est ça. Aussi, c'est cool.
Ouais, voilà. Carrément. J'ai écouté cette petite intro parce que vraiment en mode pur kiff. Je me suis dit,
franchement, c'est très très chouette.
Pareil, faut que je me note après celui que t'as. Ça a été réédité par un ami à moi qui s'appelle Hot Casa Records. Okay. On embrasse. Il cherche, il digue des vieux sons comme ça qui n'ont pas été réédités. Il leur redonne une vie et il leur redonne
en
renvoyant tout l'argent du coup à toutes les familles et tout quand c'est des gars qui sont plus là et tout. Et,
c'est trop bien.
Et ce morceau, voilà, c'est un gars avec une flûte là sur la pochette, avec sa grande flûte.
T-Mac.
C'est incroyable.
C'est remasterisé aussi, peut-être, ça sonne bien, ça sonne fat.
Je pense que c'est pas remasterisé.
Ah ouais,
pense justement, c'est la beauté de ça, c'est la beauté de l'imperfection, la chaleur de comment ça sonne. T'entends la stéréo imparfaite, t'entends les petits débris dans le son et tout.
C'est
la mini parenthèse où je me disais, tiens, c'est pas ça que j'allais faire écouter de base, mais je me suis dit, faut que t'écoutes.
Donc, est-ce que c'est ton morceau ou t'en as un autre quand même?
Écoutons ton morceau.
Vas-y, ok. Il va nous douiller,
j'en ai un.
Bon, allez, vas-y, j'enchaîne.
J'en ai un bonus.
Écoute, on a sorti chez Mente le Son une vidéo, mon collègue Raoul Chilitoy a sorti une vidéo sur la musique de Super Mario, le thème de Super Mario, okay. Et qui est en fait hyper inspiré par toute la scène un peu jazz fusion, jazz rock, japonais des années 70-80.
Cassiopée et tout, là, toute cette
exactement, scène-là. Exactement, Cassiopeia, T-Square, tout ce genre de trucs, je crois que c'est T-Square.
Tamara Taka Masayoshi, je le dis mal. Je le dis mal dans les syllabes, c'est sûr. Je le dis mal dans les syllabes.
En tout cas, c'est ta cam aussi.
Ouf, j'ai des playlists complètes de ça.
Mais pour la petite histoire, les bandes son des jeux actuels Nintendo, genre par exemple celle de Super Mario Kart World,
c'est encore hyper incroyable.
C'est super jazzy. C'est super jazzy.
La BO de Gran Turismo, c'est Cassiopeia qui l'a faite carrément. Et c'est pour ça il y a un EP, je crois, qui s'appelle carrément Gran Turismo.
Ben sur le thème de Mario est extrêmement inspiré par un morceau de T-Square. Allez voir la vidéo de Monte le Son. Le thème de Guile de Street Fighter, qui est un thème mythique et fantastique. Pareil, il est ultra pompé sur un morceau de T-Square. C'est assez incroyable. Bref, ça m'a replongé un peu dans cette scène. Et notamment, certainement, le groupe le plus iconique un peu de cette période, c'est le Yellow Magic Orchestra, évidemment.
Bien sûr.
Et qui a influencé absolument tout le monde. Toutes les scènes.
Ouais, pardon.
C'est morceau. Perspective. Allez,
écoute, c'est Technopolis.
Ah bah dommage.
Perspective aussi. Il avait une balle dans le pied d'œil, il a fait. Ah bah l'autre était mieux.
Il y en a plein de bien. Technopolis pour commencer.
Allez, c'est parti.
C'est tellement le mot chevaleresque.
C'est incroyable.
Mais toute cette scène-là, c'est fou, la richesse harmonique, toutes les émotions par lesquelles tu passes, c'est fou. C'est pour ça que souvent, des morceaux un peu pointus de jazz, les gens ils disent que ça ressemble à la musique de Super Mario. Mmh. Et souvent, dans toute la scène.
C'était une inspiration, c'est vrai.
Mais c'est fou, j'adore, c'est trop cool. C'est le nom que j'ai cherché tout à l'heure, c'était Hiroshi Sato aussi. Hiroshi Sato pour les kiffeurs de Japan Jazz Fusion, Hiroshi Sato, il y a des albums incroyables.
Yuji Ono aussi.
Ouais.
Et dans le cas de Yellow Magic Orchestra, hormis le fait qu'il y a des musiciens fantastiques, dont Ryuichi Sakamoto évidemment, qui est un grand musicien, pianiste, etc., c'est qu'ils ont aussi influencé toute la scène électronique parce qu'ils ont été parmi, c'est pas Kraftwerk non plus, mais ils ont quand même été très tôt à utiliser des sons très électroniques, des synthétiseurs, etc. Ils ont vraiment influencé de fou.
Ah, c'est trop cool.
Julien.
Écoute-moi, à première vue, Attends, on pourrait faire ça pendant deux heures.
Ça va être un concept d'émission.
Piégez pas là-dessus parce que je joue ce soir, il va falloir que je parte. Mais attention, moi, on peut faire une émission complète là-dessus.
Il est 17h30,
quoi. Grave. Donc, on peut y aller. J'allais parler d'un morceau justement qui existait qu'en vinyle et qui a été uploadé maintenant sur Spotify. Mais je trouve ça bien, du coup, de citer quelque chose qui a genre. Il y a moins de 1000 auditeurs par mois sur Spotify, tu vois, c'est un truc. C'est un morceau, alors le groupe s'appelle Network.
Ok.
N-E-T-W-E-R-K.
Ouais.
Et je dirais le morceau I Need You.
Allez.
C'est un projet qui est sorti dans les années 80. C'est un projet qui est très flou, il n'y a qu'un album. Ça n'a jamais fait de concert, c'est qu'un album de studio. Et c'est des musiciens qui apparemment étaient des musiciens. Il y en avait, ils avaient joué avec Prince, d'autres avec d'autres gros groupes de funk et tout. Et ils se sont réunis et ils ont fait une espèce d'album de super-héros de la funk comme ça, où on comprend pas trop qui a joué dessus. Et ils ont édité un vinyle, donc Network. Et apparemment, il y a eu une erreur d'impression. Ça, c'est la légende. Il y a eu une erreur d'impression. Ça s'est appelé Network. C'est le mauvais. Donc, ils ont tâché tous les vinyles et ils ont refait que quelques vinyles. Donc, c'est un vinyle hyper rare. Et un jour, j'avais un pote qui jouait ce vinyle et je cherchais. C'était pas encore sur Spotify. Ça a été uploadé, mais il y a moins de 20 000 streams dessus. Okay. C'est vraiment ultra.
Ultra.
Donc là, je vous donne ma petite truc secrète. I Need You, Network. Et ça sonne comme si ça avait été mixé aujourd'hui. Ça me rend fou.
Eh ben, je connaissais pas. Et Julien est donc dans la team La Funk. On retient. Et pas Le Funk.
Il y a
team La Funk, ouais. Team Le Funk.
Il vient du sud-ouest, moi je lui parle.
Allez, on s'écoute ça. Network. I Need You.
Choisi de faire ça, tu vois, à cette époque-là, c'est...
Et c'est marrant parce que c'est vraiment un truc, ça démarque, t'as l'impression que Bruno Mars, il pourrait prendre ça, parce que ça sonne
bien
vraiment,
sûr. Moi, je pense que dans la team de Bruno Mars, il connaît cet album. Ouais. Je te le dis, il y a 2-3 morceaux.
Ouais, tu dis... C'est hyper étonnant, c'est le mix d'origine, donc ça.
C'est le mix d'origine.
Il est hyper dans le bas, c'est hyper, c'est moderne, entre guillemets.
En fait, c'est ça qui est étonnant, c'est qu'il y a des partis pris de production, d'arrangement. Franchement, moi, je dirais qu'il y a que la voix qui te replonge dans un truc où tu te dis, OK, la voix, ça veut pas cheater, c'est la voix des années 80.
Ouais,
tout.
La voix, c'est.
Genre, limite avec l'intro. Il y a un délire un peu Sébastien.
Mais bien sûr, Justice, mais grave. Mais non, mais pour le coup, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent cet album. Ouais. je vous conseille dessus sur cet album le morceau Cover Girl qui est trop bien si vous aimez les basses qui groove. Et il y a aussi un morceau qui s'appelle Jenny dessus avec des beaux synthés. Voilà, mais c'est tout l'album.
Je vais aller sur Discogs juste pour rire, parce que à mon avis.
Je pense qu'il coûte cher.
Mais je pense.
Alors
aussi,
peut-être que maintenant qu'il est dispo sur en streaming, peut-être qu'il a perdu un peu en prix, je sais pas.
C'est possible.
Je pense qu'il coûte cher.
Alors, pendant que tu regardes Daz, je vais remercier tout le monde. On a eu des messages répondeurs, Daz.
Non.
Je te jure que c'est vrai.
Incroyable.
On a deux messages répondeurs. Enfin, un récent et un que j'avais pas vu, qui date d'il y a 6 mois.
Oh, la personne est morte. On est désolé.
On l'embrasse.
Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on, parce que là, on est un peu limite en temps, est-ce qu'on garde pour le dernier épisode ou est-ce qu'on écoute maintenant?
Garde pour le dernier.
Ok, bon, merci en tout cas pour vos messages. Il y a le lien d'ailleurs si vous voulez laisser un message répondeur pour le dernier épisode, par exemple.
Oui.
Eh bien, envoyez-le nous sur SpeakPipe, il y a le lien dans la description. Merci à Julien Granel évidemment.
C'est super.
Merci à vous, merci beaucoup, merci à toute l'équipe, merci pour accueil.
L'équipe, c'est La Bouclette qu'on remercie, Sam, Flav, Iris. On remercie François aussi évidemment pour le montage. Merci aussi à Thomann, grâce à qui on fait cette émission, qui soutient cette émission. Évidemment que t'as déjà acheté chez Thomann.
Bien sûr, bien sûr.
Régulièrement. Bien sûr. Tous les jours, tu achètes chez Thomann.
Régulièrement.
Tu vois, l'influenceur, il a l'habitude.
Direct.
Et puis, merci à vous, chers auditeurs,
comme
évidemment.
Comme toujours.
Alors, il est cher, ce vinyle?
J'ai pas trouvé.
Le groupe
est dispo, mais le vinyle.
Quand tu trouves pas, ça veut dire que c'est un prix indécent.
Il y a le groupe qui est listé sur Discogs, mais il faut que j'aille diguer un petit peu, mais je sens que...
Il est dur à trouver, ce vinyle.
Je sens que ça va être... Il faut qu'on fasse des trucs avec les disquaires à côté là.
Ah oui. Hein. Ah ouais. Écoute, on peut faire
des choses dans le 18 là.
Écoute, on a des amis. On peut faire. Il y a les gens de
Arc aussi.
Bah oui, il y a nos amis de Arc qui sont déjà venus.
Trop bien.
Il y a les gens de Dishonored aussi qu'on connaît un peu.
Il y a des trucs à faire.
Gens, on peut.
Génial.
Eh oui, il me faut des vinyles, la merde.
Bon, et merci à vous, merci, évidemment, de gens. Nous suivre.
Merci de nous avoir écoutés, parce que ça dure longtemps. Donc merci. Si vous êtes toujours là sur la vidéo,
c'est que c'est des vrais.
Ou sur l'audio, merci beaucoup.
Ou j'espère que. Et dans ce cas-là, debout.
Non, non, c'est pas grave, c'est bien. Ça nous fait des écoutes. Continuez, remettez au début et continuez
de dormir.
Puis on se retrouve dans 15 jours pour le dernier épisode de la saison. Ciao.